Histoire chrétienne, préface de l'éditeur du site L'Église primitive, fondée par les apôtres, était certainement vraie et pure. Il prêchait un évangile de délivrance, liberté du péché, de sainteté et de pureté. Pourtant, dès les jours des apôtres, de faux prophètes et de faux évangiles étaient prêchés. Ces fausses doctrines se sont répandues comme une gangrène jusqu'à ce que toutes les sectes ne deviennent que des variétés évolutionnistes de l'Église de l'Empire romain, tant à l'est qu'à l'ouest, dont les doctrines furent dictées par les empereurs canonisés Constantin et Justinien le Despote, éliminant ainsi le véritable évangile vers l'an 388 après J.C. Comme prophétisé dans l'Apocalypse, l'Église s'est adultérée, s'est compromise avec les rois de la terre. La véritable Église est allée au désert pendant 1260 ans pour réapparaître brièvement en 1648 lors de l'entrée de George Fox dans le royaume, pour ne disparaître de nouveau qu'en 1880. Toutes les religions du monde promettent à l'homme pécheur la paix avec Dieu, au moyen d'un acte de cérémonie, de rituel ou d'achat. Il est intéressant de noter les façons dont la fausse Église chrétienne a justifié le fait que ses adeptes demeurent esclaves du péché. D'abord, les catholiques romains, avec leur masse encore enfermée dans le péché, et sans comprendre comment les conduire de l'esclavage du péché à la liberté, ont inventé le purgatoire comme espérance pour la masse de leurs membres. Seuls les quelques-uns ayant d'immenses « bonnes œuvres » astérisques étaient jugés par leur secte avoir été des saints, censés aller directement au ciel, le reste de leurs membres allaient au purgatoire pour y être purgés de ses péchés, tandis que tous les non-membres allaient en enfer pour toujours. Ainsi, la promesse du purgatoire maintenait les foules de leurs membres cotisants, non canonisés à revenir. Astérisque, les bonnes œuvres sur lesquelles s'appuient les catholiques romains ne sont pas des œuvres de la loi, mais des œuvres de Matthieu 25, 31-50, de bonté et de miséricorde, visiter les malades, vêtir ceux qui sont nus, nourrir ceux qui ont faim et visiter les prisonniers. Puis la réforme protestante commença avec John Wycliffe, Johann Hus et Martin Lude. Martin Lude créa une doctrine entièrement nouvelle, disant à tout le monde qu'ils étaient saints simplement en croyant en Jésus. Lude ignora les livres de Jacques, des Hébreux, de Jude et de l'Apocalypse pour élaborer sa théorie. Quelle que soit la profondeur du péché d'un homme, la nouvelle doctrine de la grâce excusait tous les péchés, passés et présents. Lude prit Romains 3, 28 et bâtit sa doctrine « L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi ». Astérisque, cette doctrine disait aux hommes enfermés dans l'esclavage du péché qu'ils étaient fils de Dieu, saints, rois et prêtres. Peu après, la guerre des paysans en Allemagne, menée par des despotes religieux inspirés de Lude, tua 100 000 membres de la noblesse et des catholiques romains. Ainsi, les protestants inventèrent une nouvelle manière de contrôler les masses, leur dire que le péché est acceptable aux yeux de Dieu, et qu'ils sont déjà des saints en route pour devenir prêtres et rois dans la vie à venir. Astérisque, puisque les catholiques croyaient que des œuvres de bonté et de miséricorde étaient requises pour entrer au ciel, les protestants rejetèrent toute œuvre comme nécessaire. Pourtant, Paul rejetait les œuvres de la loi, telles que la circoncision, le manger et le boire, les jours, les ablutions, les sabbats, les sacrifices, etc. Il ne rejetait pas les œuvres d'amour animées par la foi consistant à entendre les ordres du Seigneur et à lui obéir, ni l'obéissance aux lois morales. Se rebellant contre les indulgences et le purgatoire de la foi romaine, les protestants rejetèrent même les œuvres d'amour obéissantes comme bénéfiques, alors qu'en vérité, partager avec d'autres les nécessités de la vie à partir de votre surplus est l'étape initiale de la repentance pour quiconque aspire à devenir chrétien. Cependant, jusqu'à ce que vous soyez conduits par l'Esprit de Dieu, poussés à accomplir des œuvres et rendus capables de les faire, vos œuvres sont imparfaites et Jésus exige des œuvres parfaites de ce qu'il crée pour les bonnes œuvres. Aujourd'hui, on peut encore entendre le cri, pas par les œuvres, ce qui est scripturaire, mais ce qui n'excluait pas les œuvres de repentance et les œuvres d'amour animées par la foi consistant à entendre les ordres du Seigneur et à lui obéir. Paul n'exclut pas non plus d'aucune manière l'obéissance à la loi morale écrite dans le cœur de tout homme, l'esprit de l'homme l'accusant ou l'excusant, et par laquelle Dieu jugera tout homme. Rome 2, 13, 16. On ne peut être justifié ni sauvé en essayant d'observer les commandements moraux. Aime ton prochain comme toi-même, ne mens pas, ne vole pas, ne tue pas, ne convoite pas, ne commets pas d'adultère, honore ton père et ta mère, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. On est sauvé et justifié par une foi qui purifie le cœur. Mais vos meilleurs efforts pour vous conformer à ces lois morales présentes dans le cœur de tout homme sont le préalable à une recherche sincère de Dieu. Après que Dieu a purifié votre cœur, vous marchez selon les pensées, paroles et actes qu'il vous fournit. C'est accomplir la loi, et même la dépasser. Jusqu'à ce que vous soyez conduits par l'Esprit, entendant et voyant ce à quoi obéir par la foi, votre pédagogue est la loi jusqu'à ce que cette foi vienne. Galates 5, 18, Galates 3, 24-25. Bien sûr, les catholiques romains comme les protestants ont tort. Le péché est Dieu, le péché est le ciel, la lumière et les ténèbres, la corruption et l'incorruptibilité, la justice et l'injustice, rien de tout cela ne peut coexister. La chrétienté ignore les exclusions, les exigences et les conditions qualificatives du salut. Jésus a expulsé Satan du ciel à cause de son péché. Jésus a chassé Adam et Ève du paradis à cause de leur péché. Jésus n'a pas changé et ne change pas, il n'a pas permis le péché ni les pécheurs au ciel alors, et il ne permettra pas le péché ni les pécheurs au ciel maintenant, ni à l'avenir. Le péché doit disparaître avant que vous puissiez entrer au ciel. De la parole du Seigneur au-dedans, l'Église catholique et médiévale, c'est une bête. Les sectes protestantes n'ont rien inventé de nouveau, excepté le salut instantané par la grâce, ce sont des mensonges tordus et pernicieux, une faille fatale qui détourne le juste. Le monde entier est allé dans la voie de l'erreur, tous meurent dans le péché, le monde demeure dans le péché. Il n'y a aucune église dans le monde que Christ ait établie spécifiquement, aucune des églises ne reflète le véritable christianisme. Le christianisme n'a aucune idée de ce que je suis ni de ce que je défends, l'ennemi est dans toute la chrétienté. Les dirigeants actuels de la chrétienté sont des guides aveugles, non parvenus à la perfection, non instruits par Christ, non autorisés par Christ et non envoyés par Christ. Ils sont incapables d'accomplir le but du ministère, le perfectionnement des saints, afin de parvenir à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. La chrétienté est Babylone, prétendant être la sainte épouse de Christ, tout en se vautrant dans la boue du péché, souillée, corrompue, périssante, en route vers la destruction, ignorant presque tous les enseignements et commandements de Jésus, sans crainte de Dieu, indifférente à l'appel de Dieu à la sainteté, à la pureté, à la perfection, à la justice et à l'état sans péché. L'écrit ci-dessous détaille comment cette abomination du véritable christianisme s'est produite. Ce qui suit est une brève histoire de la chrétienté, tiré de The History of the Religious Society of Friand, volume 1, 1870 de Samuel Janet. Dans les discours rapportés du Sauveur, et surtout dans ce sublime compendium de doctrine chrétienne, le Sermon sur la montagne, sont énoncés des principes qui, s'ils étaient mis en pratique, révolutionneraient le monde, renversant les trônes de la superstition et du despotisme, délivrant l'humanité de l'asservissement esclavage du péché, et l'introduisant dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il est digne de remarque qu'aucun credo ni confession de foi ne fut adopté dans l'Église chrétienne primitive. Tous les disciples reconnaissaient Jésus comme le Messie promis, le Fils de Dieu et le « messager de l'Alliance », qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, et qui se manifesterait comme le souverain du royaume de Dieu par la communication d'un nouveau principe divin de vie qui, pour ceux qui sont rachetés et gouvernés par lui, confère la certitude du pardon des péchés. La vie a été manifestée, dit l'apôtre Jean, et nous l'avons vue et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. En Jésus-Christ, ce principe divin de vie fut manifesté dans sa plénitude, et de sa plénitude, écrit Jean l'Évangéliste, nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Le grand dessein du ministère de Christ était de diriger l'attention de l'humanité vers cette puissance divine dont le gouvernement, tel qu'illustré dans ses paraboles, fait naître, dans l'âme humble et dévouée, le règne de Dieu, ou royaume des cieux. Voilà donc la doctrine fondamentale de la religion chrétienne, l'enseignement et le gouvernement du Saint-Esprit, par la puissance rédemptrice et sanctifiante duquel l'homme peut devenir participant de la nature divine. On peut objecter que certains sont apparus, revêtus de peau de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, et la question peut se poser, comment distinguer les membres du corps spirituel de Christ de ceux qui ne font que se prévaloir de son nom ? Lui-même nous a donné le critère, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la quiétude et une confiance assurée pour toujours, la patience y compris la longanimité, la fermeté et la persévérance, la bonté y compris la moralité et l'intégrité, la bienveillance, la foi, la douceur y compris la mansuétude et l'humilité, et la maîtrise de soi, la domination des appétits sensuels, des passions et des désirs. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Les fruits de l'Esprit se sont toujours manifestés par la sainteté de la vie et de la conduite, et la véritable Église chrétienne, à l'époque apostolique, se distinguait par les caractéristiques suivantes, à savoir 1. Un culte spirituel pur, 2. Un ministère de l'Évangile libre, 3. La liberté religieuse. 4. Un témoignage contre la violence et l'oppression, 5. Un témoignage contre les serments, 6. Un témoignage contre les maux de veine, les divertissements corrupteurs et les titres flatteurs. Ces témoignages, propres à la dispensation chrétienne, peuvent être considérées comme les marques par lesquelles la véritable Église de Christ s'est toujours distinguée, et chacun fera donc l'objet d'un examen séparé. 1. Le culte spirituel en esprit, et en vérité puisque la doctrine fondamentale du christianisme est la révélation de la volonté de Dieu par l'enseignement immédiat de son esprit, le culte auquel cela conduit est de nature spirituelle. Robert Barclay observe que l'auteur du christianisme n'a prescrit aucune forme fixe de culte, n'ordonnant que ceci, qu'il soit en esprit et en vérité. Et il convient, particulièrement d'observer que, dans tout le Nouveau Testament, il n'y a ni ordre ni commandement donné sur ce point, si ce n'est de suivre la révélation de l'Esprit, sauf seulement celui, général, de se réunir ensemble. Cette vue est corroborée par Niand, l'un des historiens ecclésiastiques les plus estimés. Le royaume de Dieu, dit-il, le temple du Seigneur, devait être présent, non en tel ou tel lieu, mais en tout lieu où Christ lui-même agit dans l'Esprit, et où, par lui, le culte de Dieu en esprit et en vérité est établi. Chaque chrétien en particulier, et chaque église en général, devait représenter un temple spirituel du Seigneur, le vrai culte de Dieu devait être uniquement dans le cœur intérieur, et toute la vie procédant de telles dispositions intérieures sanctifiées par la foi devait être un service spirituel continuel. Telle est la grande idée fondamentale de l'Évangile, qui prévaut dans tout le Nouveau Testament, par laquelle tout l'aspect extérieur de la religion devait prendre une forme différente, et tout ce qui était autrefois charnel de le christianisme poussait souvent les hommes à rechercher le silence du sanctuaire intérieur, et là à répandre leur cœur devant Dieu, qui habite en de tels temples. Mais alors aussi les flammes de l'amour s'allumaient dans leur cœur, lesquelles recherchaient la communion afin de se fortifier mutuellement et de s'unir en une seule flamme sainte tournée vers le ciel. La communion de prière et de dévotion était considérée comme une source de sanctification, dans la mesure où l'on savait que le Seigneur était présent par son esprit au milieu de ceux qui s'étaient rassemblés ensemble en son nom, mais ils étaient loin d'attribuer une sacralité ou une sainteté particulière au lieu de l'assemblée. 2. Un ministère de l'Évangile libre le culte divin sous la dispensation chrétienne, étant purement spirituel, n'a pas besoin de l'intervention d'un sacerdoce ou d'un ordre clérical pour servir de médiateur entre Dieu et l'homme. Les chrétiens primitifs reconnaissaient Jésus-Christ comme la tête de leur Église et le souverain sacrificateur de leur profession. En lui, ils étaient unis comme un seul corps, à travers lequel le courant de vie divine s'écoulait, apportant santé et nourriture à chaque membre, et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit « L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, et comme elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. » 1 Jean 2, 27 « Mais bien que l'enseignement de l'Esprit soit le plus grand privilège accordé à l'homme, il a plu au grand chef de l'Église d'accorder à ses membres divers dons spirituels d'enseignement et de gouvernement, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Il ressort abondamment des récits du Nouveau Testament que tous ceux qui étaient reconnus comme ministres de l'Évangile avaient reçu un appel divin à ce service et étaient dotés de dons spirituels pour les rendre aptes à l'accomplir. Prêcher l'Évangile efficacement, c'est amener les auditeurs sous la puissance baptismale de la vérité divine, ce qui ne peut être produit par le simple effort humain, même aidé par des aptitudes et du savoir. Aucun cours d'eau ne peut s'élever au-dessus de sa source, aucune âme humaine ne peut communiquer à une autre une vertu guérissante, si elle n'est elle-même baptisée dans la pure fontaine de l'amour éternel, astérisque et astérisque commentaire de l'éditeur du site, M. Janet était lui-même quake, mais semble ignorer la croix, et n'ayant pas atteint la pureté résultant de la croix du Christ, n'est pas parvenu à entrer en union avec Christ et à entrer dans son royaume. Vers 1750, les Quakers avaient déjà oublié la nécessité de la mort de la nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi. Ils avaient contourné la croix et étaient passés à la nécessité d'un baptême d'amour, qui pouvait facilement être confondu avec pratiquement n'importe quelle expérience spirituelle. En réalité, le baptême nécessaire n'est pas celui d'amour, mais le baptême de mort, mourir avec Christ, être enseveli avec Christ et ressuscité avec Christ, devenant une créature entièrement nouvelle. Ainsi, ils furent trompés en croyant qu'ils avaient tout, et leur progression spirituelle resta très en deçà du repos, de l'union et du royaume. Ils étaient déjà dans une forme de cacrisme primitif, sans la puissance de Dieu pour les changer. La croix est nécessaire pour libérer la puissance de Dieu afin de changer un homme. M. Janet est un meilleur historien qu'un véritable chrétien. Ce ministère spirituel dans l'Église primitive n'était pas réservé aux hommes, car comme Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte, la prophétie de Joël était alors accomplie, et il arrivera, dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. En conséquence, nous constatons que les femmes, tout autant que les hommes, étaient appelées à publier la bonne nouvelle du salut. Les ministres étaient parfois appelés prophètes, car prophétiser, c'est parler pour l'édification, l'exhortation ou la consolation. Il nous est rapporté dans les Actes que Philippe, l'évangéliste, avait 4 filles vierges qui prophétisaient, et Paul écrit au sujet de certaines femmes qui travaillaient avec lui dans l'Évangile. Une autre caractéristique remarquable de l'Église primitive était que les ministres ne recevaient aucun salaire pour prêcher. Ils adhéraient aux préceptes de leur maître « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Après la résurrection de Christ, nous trouvons Pierre et d'autres allant pêcher, car ils étaient pêcheurs de métier, et Paul, qui était fabricant de tentes, subvenait à ses besoins en travaillant à son métier pendant qu'il demeurait à Corinthe, prêchant l'Évangile chaque sabbat dans la synagogue juive. Il est vrai que Paul revendiquait pour lui-même et pour d'autres, lorsqu'il voyageait dans le ministère de l'Évangile, le privilège de séjourner dans les maisons des frères et de manger ce qu'on leur mettait devant eux, conformément aux instructions de leur Seigneur. Il appelle cela « participer à leur bien charnel » et l'illustre par l'injonction mosaïque « Tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain ». Mais même ce privilège, il ne se sentait pas toujours libre de l'accepter, car la nécessité lui était imposée de prêcher l'Évangile, et il le faisait sans frais. À ce sujet, Niander remarque dans son Histoire de l'Église que Paul déclare expressément que ceux qui se déplaçaient pour prêcher l'Évangile étaient justifiés de se laisser fournir leurs besoins terrestres par ceux pour l'avantage spirituel desquels ils travaillaient. Mais nous n'avons pas le droit d'en tirer la même conclusion au sujet des responsables d'églises de communautés particulières. Les premiers ne pouvaient guère concilier les activités nécessaires pour gagner leur vie avec les travaux de leur vocation spirituelle, bien que le renoncement de Paul rendît même cela possible. Les autres, au contraire, pouvaient très bien, au début, concilier la poursuite de leur emploi avec l'exécution de leurs devoirs dans l'Église, et les idées primitives des chrétiens pouvaient ne rien trouver d'offensant dans une telle union, puisque les hommes étaient persuadés que toute occupation terrestre peut être sanctifiée par le sentiment chrétien. 3. Liberté religieuse. Parmi les nombreuses bénédictions résultant des doctrines de Christ, lorsqu'elles sont fidèlement maintenues, figure la liberté religieuse, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le véritable chrétien n'empiétera ni sur la liberté d'autrui, ni ne cédera ses principes à la domination ecclésiastique. Lorsque les disciples, Jacques et Jean, demandèrent au Maître s'il devait faire descendre le feu du ciel pour consumer les Samaritains qui refusaient de les recevoir, il les réprimanda en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » En conséquence, nous ne trouvons, à l'époque apostolique, aucun exemple où la liberté de conscience ait été violée par des chrétiens. Ils ne tentèrent pas d'imposer leurs doctrines aux autres, mais laissèrent chaque homme libre de suivre ses propres convictions du devoir, et d'autre part, quand les autorités leur ordonnèrent de cesser leurs devoirs religieux, les apôtres répondirent « S'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu, jugez-en. » Et les ministres et les anciens chargés de paître le troupeau de Dieu en prenaient soin, non pour un gain honteux, mais avec empressement, et ils ne se comportaient pas comme des maîtres de l'héritage de Dieu, mais comme des modèles du troupeau. Ils ne prétendaient pas être une caste séparée du peuple, car il n'y avait alors aucune distinction entre clergé et laïcat, et ils n'acceptaient pas de titre de révérence que le maître lui-même a expressément interdit. Le gouvernement de l'Église appartenait à l'ensemble de ses membres, parmi lesquels, dit Moshem, régnait non seulement une harmonie aimable, mais aussi une parfaite égalité. Le peuple était sans doute le premier en autorité, car les apôtres montrèrent par leur propre exemple que rien d'important ne devait être entrepris ou décidé sans le consentement de l'Assemblée, et une telle manière de procéder était à la fois prudente et nécessaire en ces temps critiques. C'était donc l'Assemblée du peuple qui choisissait des dirigeants et des enseignants, ou les recevait par un consentement libre et autoritaire lorsqu'ils étaient recommandés par d'autres. Ce même peuple rejetait ou confirmait par ses suffrages les lois que leurs dirigeants proposaient à l'Assemblée, excommuniait les membres débauchés et indignes de l'Église, rétablissait le pénitent dans ses privilèges perdus, rendait jugement sur les différents sujets de controverse et de discussion qui surgissaient dans leur communauté, examinait et tranchait les différends qui survenaient entre anciens et diacres, et en un mot, exerçait toute l'autorité qui appartient à ceux qui sont investis du pouvoir souverain. 4. Un témoignage contre la violence. Note de l'éditeur du site. Comme tous les Quakers à partir d'environ 1750, ils étaient devenus confus dans leur compréhension de la guerre et de l'armée, qui auparavant avait été laissée à la conscience individuelle, nombre de premiers Quakers étant eux-mêmes soldats et marins. La question des armes relevait de la conscience individuelle, et même Isaac Pennington avait admis la nécessité d'une armée pour protéger les innocents contre une invasion étrangère et pour maintenir l'ordre de la population. Par conséquent, J'ai légèrement modifié la section ci-dessous afin qu'elle ne traite que de la violence et non des guerres, qui sont parfois inévitables, du moins pour ceux qui subissent une agression. Pour en savoir davantage sur ce sujet, voir soumission au gouvernement. En aucun point la religion de Christ ne s'est plus remarquablement distinguée de toutes les autres que par son opposition à la violence. Pendant des milliers d'années, le monde avait été gouverné par la force physique et la terre avait été imbibée du sang de ses habitants. Mais à la naissance du Messie, la nature de son royaume fut indiquée par l'hymne angélique « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes ». Dans le sermon sur la montagne, il proclama ses principes célestes qui, s'ils régnaient dans le cœur de toute l'humanité, mettraient fin à la guerre, car les « pauvres en esprit », les doux, les miséricordieux et les artisans de paix n'infligeront pas de tort aux autres et ne vengeront pas leurs propres offenses par la destruction de la vie humaine. Le divin enseignant, pour rendre ses préceptes plus emphatiques, les met en contraste avec la loi mosaïque qu'ils étaient destinés à remplacer. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent », mais moi je vous dis de renoncer au mal. Vous avez entendu qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », mais moi je vous dis « aimez vos ennemis ». Selon ses principes, il agissait continuellement, et après sa résurrection, ses disciples suivirent son exemple, attestant par leurs travaux fructueux la puissance de la vérité divine et de l'amour chrétien pour vaincre le monde. Les triomphes du christianisme ont toujours été accomplis par l'amour, et souvent au prix de grandes souffrances, mais jamais par la résistance ou la violence, car l'amour est l'adversaire naturel de la haine, et il y a peu de cœurs humains si implacables qu'ils ne puissent être vaincus par une bonté prolongée. L'amour est patient et plein de bonté, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas facilement, il espère tout, il supporte tout et ne manque jamais. 5. Un témoignage contre les serments que les serments de toutes sortes aient été interdits sous l'Évangile ne demande, pour preuve, qu'un rappel du langage explicite de Christ, qui, après avoir évoqué l'interdiction mosaïque du parjure, ajoute cette déclaration emphatique « Mais moi, je vous dis, ne jurez aucunement ». Que votre parole soit « oui, oui, non, non », car tout ce qu'on y ajoute vient du mal. Cette interdiction est confirmée par l'apôtre Jacques, qui dit « mais avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et votre non, non de peur que vous ne tombiez sous la condamnation ». Les chrétiens primitifs comprenaient et observaient ce commandement au sens littéral, comme cela a été prouvé par les écrits de Tertullien, Justin Martyr, Cyprien, Eusèbe, Origène et d'autres, 6. Contre les maux de veine, les divertissements corrupteurs et les titres flatteurs, les chrétiens primitifs étaient un peuple simple, renonçant à soi, qui, dans sa vie et sa conduite, ne se conformait pas au monde, mais était transformé par le renouvellement de son intelligence. Ayant leurs affections fixées sur les choses célestes, leur esprit s'élevait au-dessus de ces désirs vains qui poussent les adeptes de la mode à chercher le plaisir dans des vêtements éclatants et des amusements frivoles. L'apôtre des nations recommandait aux femmes chrétiennes de se parer d'un vêtement modeste, et non de tresses, d'or, de perles ou d'habits somptueux, mais, comme il convient à des femmes qui font profession de piété, de bonnes œuvres, et Pierre, dans un langage semblable, les met en garde contre l'usage de vêtements luxueux. Tertullien, s'adressant aux chrétiens de son temps, dit « Quelle raison pouvez-vous avoir de sortir paré, puisque vous êtes loin de tout ce qui pourrait l'exiger, car vous ne fréquentez pas les temples, vous ne recherchez pas les spectacles, et vous ne savez rien des fêtes des païens, vous n'avez que des affaires sérieuses qui vous obligent à paraître dehors. » Cyprien, après avoir décrit les joies pures de la vie chrétienne, fait ainsi allusion aux corruptions des païens. « Si tu jettes les yeux sur les villes, tu rencontres une assemblée plus effrayante que la solitude. Un combat de gladiateurs se prépare afin d'étancher par le sang la soif Dieu cruel. Un homme est mis à mort pour le plaisir des hommes, le meurtre devient une profession. » Et le crime non seulement se pratique, mais s'enseigne même. Mais ce n'étaient pas seulement les combats de gladiateurs que les chrétiens refusaient alors de voir, ils déclinaient d'assister à tous ces spectacles offerts pour les divertissements publics, les pantomimes, les tragédies et les comédies, les courses de chars et les courses à pied, bref, tous les amusements du théâtre et du cirque. Ils appliquaient leurs principes à toutes les affaires de leur vie quotidienne et refusaient de s'engager dans tout commerce ou activité qui pourrait donner crédit à l'idolâtrie ou servir, de quelque manière que ce soit, les goûts et les appétits dépravés du peuple. « Dieu a ordonné, dit Tertullien, que le Saint-Esprit, un esprit essentiellement tendre et bon, soit reçu avec tranquillité et douceur, avec paix et silence, et qu'il ne soit pas troublé par la passion, la fureur, la colère et la violence de sentiments irrités. » Comment un tel esprit pourrait-il supporter les exhibitions du théâtre, Or, puisque toute impudeur est pour nous un objet d'horreur, comment oserions-nous y écouter des choses que nous n'oserions pas dire, alors que nous savons que tout discours inutile et futile est condamné par le Seigneur ? Les premiers chrétiens ne se conféraient entre eux aucun titre pompeux ni appellation flatteuse, ils ne reconnaissaient qu'un seul Seigneur et Maître, Christ, et tous étaient frères. À une époque de froid égoïsme, rien n'étonnait autant leurs voisins païens que l'affection fraternelle qui régnait parmi les chrétiens, nivelant toutes les distinctions de rang ou de richesse, et effaçant tous les préjugés nationaux, de sorte que même des étrangers venus de contrées lointaines se mêlaient comme une seule et même famille. Telle était la condition de l'Église chrétienne primitive, tant qu'elle conservait la vitalité de sa constitution originelle. Il y eut sans doute beaucoup de ses membres infidèles à leur haute vocation, mais les « fruits de l'esprit » se manifestaient par une pureté générale de vie et de conduite, et si grande était l'harmonie qui régnait parmi eux que les païens étaient portés à s'écrier « Voyez comme les chrétiens s'aiment les uns les autres ». La grande apostasie, les principales causes qui conduisirent à l'apostasie furent l'ambition et la cupidité des évêques, leur prétention à des privilèges appartenant au sacerdoce juif et leur propension à adopter les notions de la philosophie spéculative. L'apôtre des nations avait averti l'Église qu'après son départ, des loups redoutables entreraient parmi eux n'épargnant pas le troupeau et que l'homme de péché serait révélé astérisque. Il les exhorte donc à se garder afin que personne ne les dépouille par la philosophie et une vaine tromperie. Il faut se rappeler que la philosophie païenne ici évoquée n'était pas comme la science moderne, fondée sur l'observation des phénomènes naturels et appliquée à des fins utiles, mais consistait principalement en vaines spéculations et conjectures qui servaient à divertir et à exercer l'imagination sans promouvoir le bien de l'humanité. Astérisque, Janet attribue à tort l'homme de péché à révéler à un seul antichrist la même fausse doctrine prêchée aujourd'hui par la chrétienté. L'homme de péché à révéler est votre propre esprit égoïste, votre propre esprit charnel qui ne peut se soumettre à la loi de Dieu, et votre cœur mauvais. Tout cela est détruit lorsque le Seigneur apparaît au-dedans de vous pour écraser sous vos pieds la tête de Satan, et lorsqu'il détruit votre esprit mauvais par l'éclat de sa venue et l'épée de sa bouche. Comme le détaille le verset et la note de bas de page de la Bible en ligne référencée, 2:2-3:4 de ce site, George Fox et William Penn ont tous deux écrit que cet homme de péché est votre propre esprit mauvais et égoïste, qui doit être révélé et détruit. Vers la fin du IIe siècle, une secte de philosophes apparue en Égypte se répandit rapidement dans la plus grande partie de l'Empire romain et fut extrêmement préjudiciable à la cause du christianisme. On les appela les néoplatoniciens parce qu'ils enseignaient certaines vues de Platon, qu'ils mêlaient et s'efforçaient de concilier avec les doctrines chrétiennes. Leur système était, en effet, un amalgame de christianisme et de paganisme, présenté dans le langage attrayant de la philosophie. Ils prétendaient choisir et combiner les vérités contenues dans tous les autres systèmes, et c'est pourquoi on les appelait parfois éclectiques. Beaucoup de ministres chrétiens adoptèrent ces vues, et l'étude de cette philosophie chimérique continua de se répandre parmi eux jusqu'à ce qu'ils se détournent de la religion simple de Christ, qui est une puissance vivifiante révélée dans l'âme, et qu'ils en vinrent à placer leur confiance dans de simples notions et des dogmes, des enveloppes vides de la théologie scolastique. Parmi les enseignants chrétiens, certains virent la tendance dangereuse de ces doctrines et s'efforcèrent d'exclure de telles discussions de l'Église, mais leurs efforts furent vains, les philosophes l'emportèrent et, en la plupart des lieux, gagnèrent une ascendance entière. Ces dons spirituels qui, à l'époque apostolique, avaient été considérés comme des qualifications suffisantes pour l'enseignement et le gouvernement, et qui avaient souvent été conférés par le chef de l'Église à des personnes dépourvues de savoir, ne furent plus jugés suffisants pour le ministère chrétien. Des lois furent promulguées qui excluaient les ignorants et les illettrés de la fonction d'enseignant public. Les évêques et autres ecclésiastiques prirent le nom de clergé, impliquant qu'ils étaient le lot ou la portion du Seigneur, et tous les autres furent appelés laïcs ou le peuple. Ainsi, le sacerdoce fut établi comme une caste séparée, supposée posséder une sainteté particulière en vertu de son ordination, et revendiquant un droit exclusif d'exercer les fonctions du ministère chrétien. Aussitôt ce monopole établi et un ordre sacerdotal imposé à l'Église, le clergé commença à empiéter sur les libertés du peuple, s'arrogeant le droit de trancher toutes les difficultés en matière de foi, et les nombreux synodes et conciles qu'ils firent réunir, composés entièrement d'ecclésiastiques, au lieu de régler leurs différends, ne firent que troubler la paix du corps et scandaliser leur profession. Le clergé eut l'habileté de persuader le peuple que les ministres de l'Église chrétienne succédaient à tous les droits du sacerdoce juif, d'où l'apparition des dîmes, des prémices, des vêtements somptueux et des titres d'honneur revendiqués par l'ordre sacerdotal. La persécution à laquelle les chrétiens étaient exposés tendait à préserver la pureté de l'Église, en refusant à des esprits égoïstes ou mercenaires tout motif d'entrer en communion avec elle ou de se présenter comme ses ministres. Cet état de choses fut entièrement changé lorsque, vers l'an 313, l'empereur Constantin fit une profession ouverte de la foi chrétienne. Il était disposé à être un patron généreux de l'Église et prodigua richesses et honneurs au clergé, ce qui hâta le progrès de la corruption. À cette époque, deux erreurs à la tendance des plus pernicieuses commencèrent à prévaloir parmi les enseignants de la religion. L'une était la maxime, qu'il était un acte de vertu de tromper et de mentir lorsque, par de tels moyens, les intérêts de l'Église pouvaient être servis. L'autre était que les erreurs en religion, lorsqu'elles étaient maintenues et auxquelles on persistait après un avertissement approprié, étaient punissables de peines civiles et de tortures corporelles. La première de ces doctrines horribles sanctionnait les fraudes et fictions pieuses employées par le clergé pour établir sa domination. La seconde servait à masquer leur zèle persécuteur contre ce qu'ils appelaient hérétiques. Le principal sujet de controverse au IVe siècle fut la doctrine de trois personnes dans la divinité, un sujet qui, durant les trois siècles précédents, avait heureusement échappé à la vaine curiosité des recherches humaines et avait été laissé indéfini et indéterminé par tout ensemble particulier d'idées. Rien n'avait été défini sur ce point pour la foi des chrétiens, et aucun mode d'expression n'avait été prescrit, comme devant nécessairement être employé en parlant de ce mystère. Il arriva donc que les docteurs chrétiens entretenaient des sentiments différents à ce sujet sans causer la moindre offense et discouraient diversement des distinctions dans la divinité, chacun suivant son opinion avec la plus entière liberté. La controverse entre les trinitaires et les ariens, qui avait commencé en Égypte, s'étant répandue et ayant occasionné de vifs débats dans d'autres parties de l'Empire, Constantin convoqua, en l'an 325, un concile général à Nicée, en Bithynie. Dans ce concile, après de nombreux débats acharnés entre les deux parties, la doctrine d'Arius fut condamnée, il fut banni parmi les Illyriens, et ses partisans furent contraints de donner leur assentiment au symbole adopté. Un édit fut publié par l'empereur, ordonnant que les écrits d'Arius fussent détruits, et que quiconque serait convaincu de les avoir cachés subirait la peine de mort. Commentaire de l'éditeur du site, « Sortez d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir ses plaies. » Ap 18:47 Oui, toutes les sectes déficitaires d'autres dieux composent la prostituée de Babylone de l'Apocalypse, dont toutes les nations ont bu le vin de la fureur de sa fornication, parce que toutes les sectes ne sont que des variétés évolutionnelles de l'Église de l'Empire romain, tant orientale qu'occidentale, dont les doctrines furent dictées par les empereurs sanctifiés Constantin et Justinien le despote, éliminant ainsi le véritable évangile vers l'an 390 âpre.
Gilles sait.
L'Église s'est adultérée avec les rois de la terre. Ce déficit n'est guère surprenant quand on considère que les disciples et apôtres du Christ Jean, Pierre, Paul et Jude ont écrit au sujet de faux docteurs et de faux prédicateurs de leur temps. Il la bête lui fut encore permis de faire la guerre aux saints de Dieu, les saints et de les vaincre. Et pouvoir lui fut donné d'étendre son autorité sur les tribus, les langues et les nations. La bête du livre de l'Apocalypse est la bête de l'autorité religieuse païenne, dont le pouvoir fut sévèrement réduit, une blessure à la tête par le christianisme primitif, particulièrement dans la région méditerranéenne. Mais une seconde bête surgit bientôt, qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais était une bête. Notez, cette bête paraît d'allure chrétienne et sous prétexte de l'autorité de l'agneau, bien qu'agissant par la puissance du dragon, dérivée de la première bête de la religion païenne, contraint les hommes à se conformer à de telles traditions, cérémonies et rites, présentés comme des devoirs chrétiens qui ressemblent aux coutumes des païens, dans leur culte idolâtre et leur superstition. La terre entière suivit cette bête et le fait encore. Ainsi s'éleva la fausse église, et quiconque niait cette fausse église, ou ne confessait pas ses péchés à un prêtre catholique trois fois par an, ou ne recevait pas le pain et le vin de l'Eucharistie trois fois par an, était martyrisé lors de l'Inquisition. Toutes les maisons suspectes et les propriétés entières étaient minutieusement fouillées, à l'intérieur et à l'extérieur des villes par un prêtre, afin de trouver de tels hérétiques qui ne se conformaient pas aux sacrements catholiques. Ainsi, si des gens ne cherchaient pas Dieu et Christ en se conformant à la méthode de culte de la secte catholique, ils étaient exterminés comme de la vermine. En se conformant au culte de la secte catholique, ils recevaient sa marque. Quiconque essayait d'augmenter sa mesure de Christ, d'acheter ou de vendre de l'huile spirituelle pour ses lampes par un moyen qui différait des masses de l'Église catholique, n'avait pas la marque de la fausse Église. Non seulement on l'en empêchait, mais on le torturait aussi brutalement lors de l'Inquisition, puis on le tuait, ce qui le rendait réellement incapable d'acheter ou de vendre. Acheter ou vendre sont des métaphores, signifiant acquérir davantage du Saint-Esprit, ce que plusieurs autres écritures démontrent aussi par différentes métaphores, eau, pain, vin, or, huile pour le Saint-Esprit, achète la vérité, et ne la vend pas, achète aussi la sagesse, l'instruction et l'intelligence. PR 23, 23 Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, oui, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et le fruit de votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte dans l'abondance. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et obéissez, et votre âme vivra. Iacchut 55:1-3 Quel pain? Jésus a dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6:35. L'Esprit donne la vie. Les paroles que je vous dis sont esprit, et elles donnent la vie. Jean 6:63 Je te conseille d'acheter de moi de l'or épuré et éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Acte 3:18 L'or épuré et éprouvé par le feu est une foi qui a été testée et éprouvée par le feu. Épreuves, souffrances et tribulations, toutes faisant partie de la croix que tout croyant doit endurer pour entrer dans le royaume. Pour plus de détails sur la marque de la bête, voir la note de bas de page Apocalypse 13:16-17 dans la Bible en ligne de ce site. Durant le Moyen Âge, 800 âpres, J.C., à 1500 âpres, J.C., 9 millions d'âmes furent mises à mort par les catholiques romains. Voir de Middle Age persécution pour savoir comment 9 millions de personnes ont été tuées à travers l'Europe. Ciré de la parole du Seigneur au-dedans, on pouvait voir que tout homme qui n'était pas en conformité ou en accord avec l'Église catholique était tué. Et tandis que cette fausse église est souvent identifiée par les protestants comme l'Église romaine, les protestants font tous partie de la même fausse prostituée. Sa bête porte de nombreux noms. Et des sectes déficitaires pratiquent les inventions humaines et catholiques. Le baptême des enfants, la Trinité jamais mentionnée dans les Écritures, le mariage célébré par des prêtres, de vains et orgueilleux bâtiments appelés saints, des clochers avec des cloches, des robes noires, des chemises noires, des cols spéciaux, des credos, la lecture de sermons, des sacrements. Les offices protestants ont leurs racines dans la messe catholique, qui est contraire à toutes les directives du Nouveau Testament et d'origine médiévale, reflétant des rituels magiques et païens ainsi que le théâtre grec, séparant le corps du Christ en deux classes. L'ordre du clergé privilégié et exalté, contre le public ou les laïcs qui ne faisaient que regarder et écouter le spectacle dramatique appelé culte. Sous la direction de l'empereur Constantin, qui avait empoisonné son fils et fait bouillir sa femme jusqu'à la mort, la secte catholique fut incorporée au gouvernement romain, qui en prescrivit la doctrine, bâtit ses églises dans tout l'empire, paya le clergé, habilla le clergé à l'identique des fonctionnaires du gouvernement romain, abolit la Pâque pour en faire Pâques, et fixa Noël pour coïncider avec les fêtes païennes romaines. On appliqua des non-chrétiens aux divers rituels et traditions païens, leur donnant de la crédibilité aux yeux des gens sans méfiance. Tous les croyants chrétiens d'Icide furent soit bannis en exil, soit tués. De nombreuses persécutions catholiques romaines furent justifiées par la célèbre formule de Saint Augustin. Pourquoi l'Église ne devrait-elle pas recourir à la force pour contraindre ses fils perdus à revenir, si les fils perdus contraignaient d'autres à leur destruction ? Un exemple classique de la fin justifie les moyens, qui perd de vue le principal commandement du Christ d'aimer ses ennemis, non de les détruire, un autre prétendu saint. Thomas d'Aquin écrivit « Quant à l'Église toutefois, il y a la miséricorde qui vise la conversion de l'égaré, c'est pourquoi elle ne le condamne pas aussitôt mais après un premier et un second avertissement, comme l'apôtre le prescrit, après quoi s'il demeure obstiné, l'Église n'espérant plus sa conversion, vise le salut des autres, en l'excommuniant et en le séparant de l'Église. » Et de plus le livre au tribunal séculier afin qu'il soit exterminé du monde par la mort. Ces saints vénérés ont cyniquement ignoré les Écritures du Nouveau Testament déclarant clairement que nous devons aimer nos ennemis, que nous devons prier pour nos ennemis, que nous devons tendre l'autre joue, et qu'il est satanique de seulement envisager de tuer ceux qui ne partagent pas notre foi. Jésus a aussi dit que si quelqu'un viole les règles de l'Église pêche, il est censé être averti par un, puis averti par deux ou trois, puis censuré par tout le corps des croyants et s'il refuse de se repentir de son erreur, il doit être expulsé et évité, non tué, ni emprisonné, ni torturé, ni dépouillé de ses biens. Nous sommes censés aimer et prier pour nos ennemis, non les détruire. Les protestants aussi ont tué des hérétiques. Jean Calvin fut un des fondateurs principaux du protestantisme, exerçant une grande influence sur les presbytériens, les congrégationalistes, les baptistes et même les luthériens. Calvin, toujours vénéré par de nombreuses sectes protestantes, força les citoyens de Genève à assister aux offices sous une lourde menace de punition par mort ou expulsion. Parce que Michel Servet avait contesté les écrits doctrinaux de Calvin, Calvin accusa et fit arrêter Servet pour hérésie, le rejet par Servet du baptême des enfants et de la Trinité, ce qui aboutit à ce que Servet fût lentement brûlé vif sur un bûcher avec du bois vert. Jacques Gruet, opposant connu de Calvin, fut arrêté, torturé pendant un mois et décapité le 26/07/1547, pour avoir placé une lettre dans la chair de Calvin le traitant d'hypocrite. Calvin fit aussi brûler vives 34 femmes comme sorcières accusées d'être responsables d'une peste. Sa théocratie à Genève se voit attribuer 76 personnes exilées et un total de 58 condamnations à mort après torture pour obtenir leur confession. Calvin justifiait la torture et l'exécution des hérétiques, écrivant « Quiconque soutiendra qu'on fait tort aux hérétiques et aux blasphémateurs en les punissant se rend complice de leurs crimes et coupable comme eux. Il n'est pas ici question de l'autorité de l'homme, c'est Dieu qui parle, et il est clair quelle loi il veut voir observée dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Pourquoi exige-t-il de nous une sévérité si extrême, sinon pour nous montrer que l'honneur qui lui est dû n'est pas rendu, de sorte que nous n'épargnions ni parenté ni le sang de quiconque, et que nous oublions toute humanité quand il s'agit de combattre pour sa gloire. Les apologistes de Calvin, qui répandent le sang et oublient toute humanité, font remarquer que bien d'autres protestants aussi ont tué des hérétiques, la défense du tout le monde le faisait. Jésus a dit « Et quiconque vous tuera pensera et prétendra qu'il a rendu un service à Dieu. » Jean 16:2. Un autre fondateur protestant vénéré fut Martin Luther, rempli de haine envers les Juifs. Extrait de l'article Wikipédia sur Martin Luther et de l'article Wikipédia sur la nuit de cristal, Kristallnacht, la nuit de verre brisé. Luther prenait d'abord la bienveillance envers les Juifs, mais seulement dans le but de les convertir au christianisme, ce qu'on appelait judan-mission. Lorsque ses efforts de conversion échouèrent, il devint de plus en plus amé à leur égard. Ses principaux ouvrages sur les Juifs furent son traité de 60 000 mots von den Juden und ihren Lügen, des Juifs et de leurs mensonges, et vom Schem Amphoras und vom Geschlecht Christi, du Saint-Nom et de la lignée du Christ, réimprimé 5 fois de son vivant, tous deux écrits en 1543, 3 ans avant sa mort. Il soutenait que les Juifs n'étaient plus le peuple élu, mais le peuple du diable. Ils étaient un peuple vil, putassier, c'est-à-dire pas un peuple de Dieu, et leur vantardise de lignée, de circoncision et de loi doit être tenue pour de la saleté. La synagogue était une fiancée souillée, oui, une prostituée incorrigible et une mauvaise traînée, et les Juifs étaient pleins de merde du diable dans laquelle ils se vautrent comme des porcs. Ils préconisaient de mettre le feu aux synagogues, de détruire les livres de prières juifs, d'interdire aux rabbins de prêcher, de saisir les biens et l'argent des Juifs, de saccager leurs maisons, et de veiller à ce que ces vers venimeux empoisonnés soient forcés au travail ou expulsés pour toujours. Ils semblaient aussi cautionner leurs meurtres, écrivant « Nous sommes fautifs de ne pas les tuer ». La persécution nazie des Juifs en Allemagne commença à une échelle massive lors de la nuit de cristal, Kristallnacht, la nuit de verre brisé, au cours de laquelle 200 synagogues furent incendiées, des livres juifs furent brûlés, 7500 devantures de commerce juifs furent brisées d'où le nom de verre brisé, des pierres tombales et des tombes furent arrachées, 30 000 Juifs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration, au moins 100 furent assassinés immédiatement, et de nombreuses maisons furent pillées. Un pogrom similaire d'ampleur comparable eut lieu à Vienne, en Autriche, la même nuit. Ces événements se produisirent les 9 et 10 novembre 1938, l'anniversaire de Luther était le 10 novembre. Le conseil de Luther fut appliqué à la lettre lors de la nuit de cristal. Ce fut le début de la solution finale et de l'Holocauste. Selon Michael, l'œuvre de Luther acquit en Allemagne le statut d'écriture et il devint l'auteur le plus lu de sa génération, en partie à cause de la nature grossière et passionnée de son écriture. Le point de vue dominant parmi les historiens est que sa rhétorique anti-juive contribua de manière significative au développement de l'antisémitisme en Allemagne et, dans les années 1930 et 1940, fournit un fondement idéal aux attaques des nationaux-socialistes nazis contre les Juifs. Reinhold Lewin écrit que « quiconque écrivait contre les Juifs, pour quelque raison que ce soit, croyait avoir le droit de se justifier en se référant triomphalement à Luther. Selon Michael, pratiquement tous les livres anti-juifs imprimés dans le Troisième Reich contenaient des références à Luther et des citations de Luther. Heinrich Himmler écrivit, en 1940, avec admiration au sujet de ses écrits et sermons sur les Juifs. La ville de Nuremberg offrit une première édition de Des Juifs et de leurs mensonges à Julius Treschow, éditeur du journal nazi Der Stürmer, pour son anniversaire en 1937. Le journal le décrivit comme le pamphlet le plus radicalement antisémite jamais publié. Le 17 décembre 1941, sept confédérations régionales d'églises protestantes publièrent une déclaration approuvant la politique consistant à forcer les Juifs à porter l'étoile jaune, puisque, après sa triste expérience, Luther avait déjà suggéré des mesures préventives contre les Juifs et leur expulsion du territoire allemand. Toutes les sectes protestantes et catholiques qui ont tué ou même approuvé qu'ont tué ceux qui avaient une opinion religieuse différente étaient très différents des vrais chrétiens, Rien qu'en envisageant le meurtre, elle suivait et cédait à leur père, le diable, qui fut meurtrier dès le commencement. Peut-être commencez-vous à voir que, vers l'an 388 âpre, J.C., la chrétienté avait été transformée en synagogue de Satan, avec des ministres de Satan transformés pour paraître des ministres de justice. Augustin et Thomas sont deux des quatre piliers du catholicisme romain. Calvin et Lude sont les principaux fondateurs du protestantisme. Si les fondateurs vénérés des sectes sont mauvais, comment les sectes et les doctrines qu'elles ont propagées ne pourraient-elles pas être mauvaises aussi? Quand la racine est mauvaise, peu importe le nombre de branches sur l'arbre, elles sont mauvaises aussi. Tirés de la parole du Seigneur au-dedans, ils sont corrompus de part en part et ils malheur à ceux qui essaient de tirer le bien du mal. Et la prostituée était ivre du sang des saints, les inquisitions et les massacres de l'Église romaine à travers l'Europe, au cours desquels, durant le Moyen Âge 800 âpre, J.C., à 1500 âpre, J.C., 9 millions d'âmes furent mises à mort, accusées de sorcellerie. Les zélotes protestants d'Allemagne, inspirés par la traduction radicale de la Bible par Lude, violèrent, pillèrent et tuèrent 100 000 catholiques et membres des classes supérieures lors de la guerre des paysans. Le roi d'Angleterre Henri VIII, le fondateur de la secte épiscopale, fit tuer 72 000 opposants, principalement des catholiques. L'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande subirent trois guerres civiles de puritains astérisque contre les gouvernements en place, qui laissèrent 190 000 morts en Angleterre, 3,7% de la population, 60 000 morts en Écosse, 6% de la population, et 616 000 morts en Irlande, 41% de la population, qui était majoritairement catholique. Astérisque justifiant leur révolution comme apportant le royaume du Christ sur la terre, les puritains considéraient leurs adversaires comme des ennemis du Christ. Les officiers puritains de leur armée inspiraient fréquemment leurs troupes en criant une citation de l'Ancien Testament contre l'idolâtrie païenne, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec fraude et qui retient son épée loin du sang. » Les soldats puritains et parlementaires victorieux, avec leurs extraordinaires noms bibliques, Prescott Barbones et Sergent Hugh Agag in Pious Before the Lord, parcouraient le pays, brisant les images dans les églises, arrachant les tuyaux des orgues, cassant les vitraux et logeant leurs chevaux dans les cathédrales. Cela fut suivi, au XVIII siècle, par les protestants d'Angleterre et d'Amérique, qui en 50 ans, furent responsables de la mort de plus de 869 Quakers, plus 4 pendus à Boston, emprisonnèrent des dizaines de milliers de personnes et saisirent les biens de dizaines de milliers. Les persécuteurs des Quakers comprenaient des épiscopaliens, des presbytériens, des congrégationalistes et des baptistes. La fausse église prostituée se vante de ne pas être veuve et de ne jamais connaître le chagrin. Elle se vante que le Christ est son mari. Mais ces fausses églises sont la prostituée de Babylone, qui ignore les commandements du Christ de se repentir, ses enseignements, ses exigences, ses avertissements, sa sainteté requise, son évangile, son royaume, sa liberté promise vis-à-vis du péché, et sa croix intérieure du renoncement à soi, la croix manquante vers la pureté. Maintenant, le monde entier, pensant adorer le Christ, adore le diable. Comment cela se peut-il? Parce que le faux Jésus qu'ils adorent excuse toutes sortes de péchés. Le faux Jésus qu'ils adorent va épouser une épouse pleine d'adultère, d'avidité, de colère, de convoitise, de langage profane, de mensonges, etc. Leur faux Jésus leur permet de vivre leur vie dans le péché jusqu'à leur mort, puis est censé les accueillir au ciel. Leur faux Jésus rend le péché plus facile, en le rendant prétendument sans culpabilité. Leur faux Jésus embrasse le péché et le mal. Leur faux Jésus dit, vous pouvez vivre comme bon vous semble, en prenant vous-même des décisions selon ce que vous pensez être bien ou mal. Jean, c'est la description du diable qui a dit à Ève qu'il serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce faux Jésus est un Dieu qui approuve que l'homme marche selon l'imagination de son propre cœur, ce qui est pire que d'adorer des idoles de bois et de pierre, Jer 16, 11, 12. Ce faux Jésus approuve que l'homme soit son propre Dieu, ce n'est pas le vrai Jésus. Jésus est saint et pur. L'épouse de Jésus doit être sainte et pure elle aussi. Jésus a dit, ne pêche plus, repens-toi ou péris. Pour perdre ton âme. Et Jésus a dit, si ta main te fait pécher, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot que d'avoir deux mains et d'aller en enfer, où le feu ne s'éteint jamais. Et si ton pied te fait pécher, coupe-le, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropiée que d'avoir deux pieds et d'être jeté en enfer. Et si ton œil te fait pécher, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté en enfer. Marc 9, 43, 45, 47, 48. Jésus essaie désespérément de nous dire que, pour entrer dans le royaume et échapper à l'enfer, le péché doit disparaître. Il savait que des ministres faux, avec de faux évangiles promettant la liberté de continuer à pécher, surgiraient après son départ. Les changements dans notre cœur, par la croix manquante vers la pureté, peuvent ôter le désir de la main, du pied et de l'œil de nous faire pécher. Le credo adopté par ce concile d'évêques crêleurs et imposé par l'épée d'un empereur romain était loin de guérir les dissensions de l'Église, car à la mort de Constantin, son empire fut partagé entre ses trois files, dont l'un soutenait les Ariens, tandis que les autres adhéraient au credo établi. Chaque parti rassembla ses évêques et ses presbytres, de sorte que concile s'opposa à concile, frère à frère, et des scènes de violence s'ensuivirent, dans lesquelles tous les principes du christianisme furent bafoués. L'ascendant obtenu par l'évêque de Rome et les moyens frauduleux employés pour soutenir son autorité contribuèrent grandement à accélérer l'apostasie générale. La prétention du pontife romain à la suprématie universelle se fonde sur l'hypothèse qu'il est le successeur de Saint-Pierre, le rocher sur lequel on allègue absurdement que le Christ déclara qu'il bâtirait son Église. Il n'existe aucune preuve que Pierre ait été évêque de Rome, ni qu'il ait délégué son autorité à un quelconque successeur, mais indépendamment de ces considérations, on ne saurait supposer que l'Église ait été fondée sur un homme faillible. Le rocher dont il est question dans le texte est ce rocher spirituel dont les Israélites burent dans le désert, et ce rocher était Christ. C'est cette parole éternelle qui révéla à Pierre que Jésus était le Fils de Dieu, et c'est sur la révélation de cette parole que la véritable Église a toujours été établie, car nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Il est cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée, que Dieu a faite la pierre angulaire. Commentaire de l'éditeur du site, Christ est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, Jean 1, 9. Ainsi Christ est la lumière qui te montre ton état, et il est la parole qui te parle par des commandements et des compréhensions. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi que nous prêchons. Rome 10, 8. Ainsi nous allons à lui, nous écoutons sa voix et nous observons ce qu'il nous montre sur nous-mêmes et sur ce qui est dans notre cœur. Si tu aimes la lumière et la parole comme étant Christ, tu obéis et tu te repens de tout mal qui t'est montré, et tu changes en mieux. En aimant et en obéissant à la parole et à la lumière qui te montre ton état, tu reconnais ce maître au-dedans de toi comme Christ. Tu as reçu la lumière et reconnu que la lumière est Christ, par conséquent tu crois en la lumière, exactement comme lorsque le Christ demanda à Pierre, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Christ dit alors, « Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matt 16, 15-8, la compréhension inébranlable, par révélation, que celui qui te parle est le Fils de Dieu, contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent rien. Maintenant, voyez ce que Jésus dit encore sur la manière dont ce rocher solide s'applique à nous, car quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, les obéit, je vous montrerai à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtissait une maison, qui a creusé profondément et posé le fondement sur le rocher. Et quand une inondation survint, le torrent se jeta contre cette maison et ne put l'ébranler ni la déplacer, parce qu'elle avait été solidement bâtie ou fondée sur un rocher. Luc 6, 47-48, il bâtit son église sur un fondement solide comme le roc. Il se bâtit en toi sur un fondement solide comme le roc. Si tu vas à lui au-dedans de toi, écoute ses paroles, puis leur obéis, tu as identifié celui qui parle comme Christ, exactement comme Pierre l'a fait dans le domaine physique, sauf que ton identification de Christ se fait dans le domaine spirituel au-dedans de toi. Siricius, appelé au siège de Rome en l'an 384 et ayant régné jusqu'en l'an 398 après, J.C., est le premier dont il existe un acte où il se donne le titre de papa ou pape, titre signifiant père. Auparavant, ce titre était donné par respect à tous les évêques sans distinction, mais ceux de Rome se l'approprièrent ensuite. Il est évident qu'à la fin du IVe siècle, l'apostasie avait tellement progressé que la véritable Église du Christ n'était plus visible. Elle avait fui dans le désert, dans un lieu préparé par Dieu, pour y être nourrie durant les 1260 ans, tandis que les témoins devaient prophétiser revêtus de sacs, et que le parvis extérieur était livré aux gentils. Dans le récit que Moshem fait du IVe siècle, il dit « Un énorme cortège de superstitions diverses fut progressivement substitué à la vraie religion, et à la piété authentique. Les reines ayant été une fois lâchées à la superstition qui ne connaît pas de bornes, des notions absurdes et des cérémonies oiseuses se multiplièrent presque chaque jour. Des quantités de poussière et de terre apportées de Palestine et d'autres lieux remarquables pour leur prétendue sainteté circulaient comme les remèdes les plus puissants contre la violence des esprits mauvais et s'achetaient et se vendaient partout à des prix énormes. Les processions publiques et les supplications par lesquelles les païens s'efforçaient d'apaiser leur Dieu furent adoptées dans le culte chrétien et célébrées en de nombreux lieux avec grande pompe et magnificence. Les vertus qui avaient autrefois été attribuées aux temples païens, à leur consécration, au statut de leurs dieux et de leurs héros, furent alors attribuées aux églises chrétiennes, à l'eau consacrée par certaines formules de prière et aux images des saints. En ces temps-là, la religion des Grecs et des Romains différait très peu, dans son apparence extérieure, de celle des chrétiens. Les uns et les autres avaient un rituel des plus pompeux et splendides. De somptueux habits, mitres, tiares, cierges de cire, crosses, processions, images, vases d'or et d'argent, et bien d'autres circonstances de parade, se voyaient également dans les temples païens et dans les églises chrétiennes. Commentaire de l'éditeur du site, non seulement la pompe païenne et les statues furent adoptées, mais même des fêtes païennes furent transformées en fêtes chrétiennes. Croyez-le ou non, le 25 décembre était l'anniversaire du dieu soleil invaincu de Rome, au solstice d'hiver. L'échange de cadeaux avait lieu la semaine précédente pour célébrer la dédicace du temple à Saturne, un autre dieu romain. La secte romaine appela donc le même jour Noël à la place, célébrant à peu près de la même façon, incluant plus tard l'échange de cadeaux, ce qui attira beaucoup plus de païens dans leur soi-disant « église ». On reconnaît généralement que Christ est né en avril ou en septembre, au moment où les bergers veillaient la nuit sur leurs troupeaux pour protéger les agneaux nouveau-nés, tirés de la parole du Seigneur au-dedans, « Mon anniversaire était le 17 jour du 9e mois ». De plus, le Seigneur n'aime pas les festins, l'ivresse, la fête, l'échange de cadeaux et la pompe païenne de Noël. Peut-être la pire chose à propos de Noël est que nous apprenons à nos jeunes enfants à être convoiteux, en les encourageant à faire des listes de souhaits et en leur demandant sans cesse « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Puis ils restent convoiteux le reste de leur vie. Pourtant, la convoitise ne devait ni se voir ni même se nommer parmi les vrais chrétiens, que la fornication, toute impureté ou la convoitise ne soit pas même nommée parmi vous, comme il convient à des saints, Hébreux 5:13. Pâques et l'allemand Ostern dérivent du nom d'une prétendue déesse anglo-saxonne de l'aurore, donc du printemps, comme l'aurore de l'année, appelée Ist, Ist et Ostre selon divers dialectes de l'anglais ancien, et Ostara en allemand. Cette déesse était honorée par la célébration de l'équinoxe de printemps en avril, particulièrement importante pour les Wiccans pratiquant de la sorcellerie. Ostre est aussi vénérée par certains néoppaïens, qui l'associent à divers aspects liés au renouveau de la vie, les œufs offrandes communes pour la fertilité, le printemps, la fertilité et les lapins, prétendument à cause de leur reproduction rapide et prolifique. La secte romaine convertit une fois de plus une fête païenne pour la faire devenir chrétienne. Au minimum, la période de Pâques coïncide parfois avec la Pâque. À propos de Halloween, un soir d'automne, alors que j'étais en Suisse, il apparut soudain des feux de bûches sur beaucoup des collines et flancs de montagnes environnants. Les bûches étaient disposées en une maison rectangulaire de rondins, sans toit, avec de grands interstices entre les bûches. À l'intérieur de la structure en rondins, on pouvait voir des mannequins d'hommes. Je demandai aux résidents de longue date quelle était la signification de ces feux, et ils répondirent qu'il s'agissait d'une ancienne occurrence annuelle, dont ils ne savaient pas pourquoi. Intrigué, je fis des recherches sur ce phénomène et trouvai que l'origine du feu de joie « Bonfire » était un « Bonfire », un feu d'os de la prêtrise druidique. Chaque automne, les Celtes païens célébraient sa main, au début de la moitié sombre de l'année, la fin de l'été. Les prêtres druides rendaient visite à chaque foyer la nuit, venant avec des bougies dans des courges, les jack-o'-lanternes de Halloween, en demandant des cadeaux animaux ou enfants pour les dieux, les bougies étaient faites avec la graisse d'êtres humains sacrifiés. Les mêmes prêtres décidaient aussi qui seraient les sacrifices humains aux dieux cette année-là. Des sacrifices étaient requis pour garder les dieux satisfaits. Ainsi, chaque foyer tentait d'être très coopératif sous peine d'être maudit ou choisi comme sacrifice humain, le trick or treat de Halloween. Les âmes malheureuses choisies pour apaiser les dieux étaient sacrifiées en étant placées dans une palissade en bois, cage wicker, puis brûlées vives dans l'embrasement de la palissade, dramatiquement visible de tous, particulièrement dans les régions montagneuses. Tandis que personnes et animaux hurlaient d'agonie en brûlant vif, les druides et leurs adeptes s'habillaient de costumes faits de peau et de têtes d'animaux. Ils dansaient, chantaient et sautaient à travers les flammes dans l'espoir d'éloigner les mauvais esprits. Cela avait lieu dans toute l'Europe, car les druides contrôlaient la majeure partie de l'Europe. Une fois encore, la secte romaine, tentant de capter les traditions de la religion païenne et de plaire à davantage de gens, convertit ce jour en la Toussaint. Vers la fin du IV siècle, l'empereur Théodosie décréta l'abolition du paganisme et interdit, sous peine de mort, la célébration de ces rites comme trahison envers l'État. Mais il n'avait probablement pas conscience que le paganisme, dans ses traits les plus essentiels, avait déjà été adopté dans l'Église. Dans la première partie du IV siècle, Théodosie publia un édit proclamant l'évêque de Rome, souverain de toute l'Église. Cette Église, qui avait été autrefois le temple de Dieu, était devenue le temple de l'Antichrist. car ce titre n'est pas limité dans son application à un individu ou à une dynastie, ni confiné à une seule localité. Il s'applique à cet esprit orgueilleux et autosuffisant en l'homme qui s'élève au-dessus de l'esprit du Christ, le pire présumant en son nom commandé et imposer l'obéissance à ses décrets en faisant la guerre aux saints. Mais bien qu'il se manifestât par ses fruits amés dans presque toute l'Église visible, c'est à Rome et à Constantinople que les preuves les plus éclatantes de sa puissance furent exhibées. Entre le pape et le patriarche, il y eut une lutte acharnée pour la prééminence, accompagnée d'une amère animosité, qui se poursuivit pendant des siècles et aboutit finalement à une séparation complète entre les églises grecques et latines. Commentaire des éditeurs du site, Jean déclare dans 1 Jean 2, 18 « Petits enfants, c'est la dernière heure il y a 2000 ans, et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a maintenant même beaucoup d'Antichrist il y a 2000 ans. Par là nous savons que c'est la dernière heure. Jean vient de nous dire qu'il y a 2000 ans, il y avait beaucoup d'antichrist. Quiconque n'a pas l'onction de contrôle de l'Esprit du Christ est antichrist. Un antichrist est quiconque prêche ou enseigne et dont les pensées, les paroles et les actes ne sont pas contrôlés par l'onction, qui est Jésus venant dans la chair de l'homme en mesure suffisante pour guider et contrôler ses pensées, ses paroles et ses actes, devenant ainsi le véritable Seigneur d'une personne. Tu peux l'appeler Seigneur et Maître, mais si tu pèches encore, tu le nies comme Seigneur. Même Judas l'appelait Seigneur et Maître. Les antichrists étaient des croyants qui les ont quittés, tirés de la parole du Seigneur au-dedans, ils n'avaient pas de patience. Ambitieux de prêcher ou d'enseigner, recherchant leur propre gloire, avides de revenus, pensant encore leurs propres pensées, ils sont sortis comme les nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Même il y a 2000 ans, Jean a dit que beaucoup d'antichrists étaient venus, et Paul a dit que beaucoup prêchaient pour un gain financier comme des hommes indisciplinés, de vains discoureurs et des séducteurs. Avec l'onction de l'Esprit du Christ, un vrai croyant connaît toutes choses, mais vous, vous avez une onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. 1 Jean 2, 20. Et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin que personne vous enseigne, mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vérité et qu'elle n'est point un mensonge, et comme elle vous a enseigné, demeurez en lui. 1 Jean 2, 27. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent, tandis que leurs âmes sont purifiées par l'obéissance à la vérité. En l'an 606, le titre d'évêque universel fut conféré au pape par l'empereur Phocas, l'un des tyrans les plus détestables qui ait jamais usurpé un trône. La puissance du siège de Rome fut considérablement accrue en l'an 754, par la donation de Pépin, roi de France, qui conféra au pape Étienne une partie du territoire d'Italie récemment conquise sur les Lombards. Charlemagne, successeur de Pépin, confirma et augmenta cette donation au pape, qui devint ainsi souverain temporel et tint l'épée du magistrat aussi bien que la crosse du prêtre. La politique constante des papes a été d'étendre l'autorité du siège de Rome par tous les moyens en leur pouvoir, et leur ambition les a souvent engagés dans des guerres dévastatrices. Durant la plus grande partie du siècle, les pontifes romains furent engagés dans des scènes de violence et de fraude presque sans pareille. 6 papes furent déposés, 2 assassinés et 1 mutilé, fréquemment 2 et même 3 compétiteurs se disputaient le siège et se chassaient tour à tour de la ville. L'histoire des papes qui vécurent en ce siècle, dit Moschem, est l'histoire de tant de monstres et non d'hommes et présente une série horrible des crimes les plus scélérats, les plus effroyables et les plus compliqués, comme tous les écrivains, même ceux de la communion romaine, l'avouent unanimement. En poussant leur dessein de domination universelle, les papes ne se limitaient pas à leurs armes spirituelles, mais, comme d'autres potentats, ils avaient leurs armées, composées pour la plupart de troupes mercenaires et fréquemment commandées par des ecclésiastiques. Dans les croisades pour la reconquête du Saint-Sépulcre, instiguées par la hiérarchie romaine, le clergé prit une part active, et tandis que les monarques d'Europe étaient affaiblis et appauvris par ces expéditions désastreuses, les pontifes romains continuaient de croître en puissance. Durant la plus grande partie de cette période de 10 siècles appelée le Moyen Âge, tandis que la superstition planait sur le monde civilisé et que l'Europe était secouée par des guerres dévastatrices, les papes, fidèles à l'instinct de l'ambition sacerdotale, profitèrent de chaque tournant des affaires politiques pour édifier le vaste édifice de leur puissance. On trouvait leurs émissaires dans chaque ville et leurs ambassadeurs à chaque cour. Par les arts de la diplomatie, ils circonvainquaient les forts, et par les terreurs de l'excommunication, ils alarmaient les timides, jusqu'à ce qu'ils pussent donner la loi aux empires, mettre le pied sur la nuque des rois. Les témoins, en contemplant la superstition, la misère et le crime qui se répandirent sur la chrétienté durant la longue nuit de l'apostasie, une question se pose, ni eut-il personne pour maintenir vivante la flamme sacrée de la religion pure. S'il y eut des témoins de la vérité, mais ils prophétisèrent en sac et cendre, dans diverses parties de l'Europe, il y eut un grand nombre de chrétiens dévoués qui, pendant de nombreux siècles, s'étaient séparés des églises grecques et romaines afin d'échapper à la domination du clergé. Grâce à leur fidélité, une succession de témoins dévoués fut préservée jusqu'au temps de la Réforme. Astérisque, ils appartenaient principalement à deux classes, issues de deux souches différentes. L'une d'elles était celle des policiers, qui prirent naissance en Orient au VIIIe siècle et qui, après avoir enduré de cruelles persécutions de la part des empereurs de Constantinople, se retirèrent en partie en Thrace et en Bulgarie, d'où ils passèrent en Italie et en France. Ils étaient connus sous les noms de Cathares, Bulgares et Albigeois. Astérisque, des témoins dévoués ne signifie pas des témoins complètement régénérés. Il n'y eut pas non plus de fondateurs de la Réforme complètement régénérés. Les chefs de la Réforme firent quelques progrès, mais restèrent très loin de la pureté, de l'unité, du royaume et de la marche dans l'esprit, telle qu'elle est dynamisée et suscitée dans les pensées, les paroles et les actes. Au VIIe siècle, une croisade fut prêchée contre les Albigeois dans le sud de la France, et les soldats qui s'engagèrent dans cette guerre sainte se virent promettre non seulement le pillage de leurs victimes innocentes, mais encore une indulgence plénière pour tous leurs péchés et un passeport certain pour le ciel. Les armées employées à ce service par le pape Innocent y exterminèrent plus de 200 000 Albigeois en l'espace de quelques mois, et sur une période de 20 ans, on estime qu'un million furent mis à mort. Les feux de l'Inquisition, aussi bien que l'épée du guerrier, furent mis à contribution pour réprimer l'hérésie. Pendant de nombreux siècles, cet horrible tribunal, inventé et dirigé par des prêtres, fut employé à l'œuvre de persécution et de destruction. Dans toute l'Europe méridionale, les sanctuaires de la vie domestique furent envahis par ces émissaires secrets, et les victimes sans méfiance, arrachées à leur foyer, furent soumises aux tourments de la torture pour extorquer des aveux, après quoi elles étaient emmurées dans des cachots ou consumées sur le bûcher. Alam, dans son Histoire du Moyen Âge, après avoir évoqué la persécution des Albigeois en Languedoc, dit « Les Cataristes, une confrérie de la même origine policienne, plus dispersée que les gens, avaient auparavant subi une épreuve semblable. Il leur attribue des qualités d'un éclat bien supérieur à l'orthodoxie, une sincérité, une piété, un dévouement de soi, qui purifièrent presque l'époque où ils vécurent. Le même historien attribue un effet très étendu à la prédication de ces gens, qui, dit-il, apparurent dans divers pays à la même époque, en Espagne, en Lombardie, en Allemagne, en Flandre et en Angleterre. Ces prétendus hérétiques, dit Mosheim, rejetaient tous les rites et toutes les cérémonies, et même les sacrements chrétiens, comme dépourvus de toute efficacité ou vertu spirituelle, même la moindre. Pourtant, il nous apprend que même leurs ennemis reconnaissaient la sincérité de leur piété, bien qu'ils les noircissent d'accusations manifestement fausses. L'autre classe de témoins chrétiens était l'église des Vaudois qui, dans les vallées du Piémont, subsistait depuis une époque très ancienne, probablement depuis le temps de Constantin, et avant la Réforme, avait répandu ses sociétés affiliées dans le nord de l'Europe. Parmi les branches issues de cette souche se trouvaient les frères Bohèmes et les Moraves. Les Vaudois affirmaient n'avoir jamais reconnu la suprématie des pontifes romains, mais avoir, dès les premiers temps, conservé les doctrines et les témoignages de l'Église primitive. Un ancien inquisiteur de l'Église catholique, Rienru Sacco, rapporte les propos suivants comme venant des Vaudois, et les docteurs de l'Église romaine sont pompeux tant dans leurs habits que dans leur manière. Ils aiment les premières places et les sièges d'honneur dans les synagogues, et être appelés des hommes rabbis, rabbis. Pour notre part, nous ne désirons pas de tels rabbis. Ils combattent, encouragent les guerres et ordonnent que les pauvres soient tués et brûlés, au mépris de cette parole, « Qui prend l'épée périra par l'épée ». Pour notre part, ils nous persécutent pour la justice, ils ne font rien d'autre que manger le pain de l'oisiveté, nous, nous travaillons de nos mains. Ils monopolisent l'enseignement, et malheur à ceux qui ôtent la clé de la connaissance. Mais chez nous, les femmes enseignent autant que les hommes, et un disciple, dès qu'il est instruit, en enseigne un autre. Chez eux, vous trouverez à peine un docteur capable de réciter par cœur trois chapitres du Nouveau Testament, mais chez nous, il n'y a guère d'hommes ou de femmes qui ne retiennent le tout. Selon Mosheim, ils adoptèrent pour modèle de leur discipline morale le sermon du Christ sur la montagne, qu'ils interprétaient et expliquaient de la manière la plus rigoureuse et la plus littérale, et par conséquent, ils interdisaient et condamnaient dans leur société toutes les guerres et tous les procès, toutes les tentatives d'acquisition de richesses, l'application de la peine capitale, la légitime défense contre une violence injuste, et les serments de toute espèce. Milton, dans un écrit intitulé « Consideration touching the legalist means to remove hirelings out of the church », dit « Ces églises réformées les plus anciennes, les Vaudois, s'ils ne sont pas plutôt restés purs depuis les jours des apôtres, niaient que l'on dût donner la dîme, ou qu'elle eût jamais été donnée dans l'Église primitive, comme il ressort d'un ancien traité inséré dans l'histoire bohémienne. Les pauvres vaudois, souche ancienne de notre réforme, sans l'aide des dîmes, s'élevèrent eux-mêmes par des métiers, et surtout par la médecine et la chirurgie, ainsi que par l'étude des Écritures, qui est la seule vraie théologie, afin de ne pas être à la charge de l'Église, et à l'exemple du Christ de guérir à la fois l'âme et le corps, ajoutant par leur industrie à leur ministère ce qu'il a joint au sien par le don de l'Esprit. Ainsi Pierre Gilles le rapporte dans son Histoire des Vaudois du Piémont. Les Vaudois furent cruellement harcelés par les agents de l'Inquisition. Beaucoup d'entre eux furent mis à mort, et d'autres, chassés de leur pays, répandirent leurs principes en terre étrangère. Dans la seconde moitié du XIe siècle, le pape Innocent VIII publia une bulle décision officielle contre eux, dans laquelle il ordonnait à l'archidiacre d'Ormona de les extirper et de les fouler aux pieds comme des aspics venimeux. Il leva en conséquence une armée à cette fin, et les victimes inoffensives de l'intolérance papale furent soumises aux barbaries les plus choquantes. Ils prirent la fuite à son approche et se cachèrent dans leurs grottes de montagne. Il fit amasser du bois aux entrées des grottes, et le feu y ayant été mis, 400 enfants furent étouffés avec leur mère, et des multitudes furent précipitées des rochers au-dessous ou massacrées par les soldats. L'œuvre de destruction fut arrêtée par le duc de Savoie, qui prit sous sa protection le reste des Vaudois. La réforme protestante au début du XVIII siècle, le pontife romain jouissait sans contestation de cette vaste autorité ecclésiastique qu'avait acquise la sagacité et la persévérance de ses prédécesseurs. Il existait cependant, dans toute l'Europe, une défiance profonde et croissante à l'égard du pouvoir papal, produite par les usurpations, les exactions, la débauche et l'arrogance de la hiérarchie romaine. En l'an 1513, Jean de Médicis succéda au pontificat sous le nom de Léon X. Il était adonné à une vie luxueuse et si épris de magnificence que les dépenses de sa cour et l'embellissement de sa capitale appauvrirent le trésor pontifical. Il fut donc conduit à employer tous les expédients pour lever de l'argent qu'avait inventé la ruse sacerdotale, et parmi eux, le plus lucratif fut la vente des indulgences. Il avait été affirmé dans une bulle décret officiel de Clément VIII que « une goutte du sang du Christ aurait suffi à racheter le monde », mais il répandit son sang en abondance afin de pourvoir son Église d'un trésor de mérite qui ne pourrait jamais s'épuiser. De plus, toutes les bonnes œuvres des saints, au-delà de ce qui était nécessaire à leur propre salut, et de là, appelées œuvres de surérogation, étaient déposées dans ce même trésor pour être dispensées par l'Église à ceux qui les achèteraient par des services ou de l'argent. C'est sur cette doctrine que fut fondée la vente des indulgences, et Alexandre VIII, le Néron du trône pontifical, fut le premier à déclarer officiellement qu'elle délivrait les pécheurs du purgatoire. Le trafic de ces titres frauduleux fut poussé par Léon X et ses agents à un degré énorme, les prix étant fixés selon la richesse des acheteurs et la nature des crimes commis ou envisagés. Tetzel, moine dominicain, fut nommé agent de ce trafic en Allemagne et il exécuta sa mission d'une manière révoltante pour la raison et la décence. À cette période favorable, lorsque les exactions de la hiérarchie romaine avaient détruit la confiance du peuple, lorsque la renaissance des lettres avait accru l'intelligence des classes instruites, lorsque l'invention de l'imprimerie avait fourni les moyens de répandre la connaissance, et lorsque les semences d'une doctrine plus pure avaient été semées dans toute l'Europe par les diverses sectes dissidentes, un humble instrument fut suscité par la providence divine pour commencer l'œuvre de réforme si longtemps désirée et si souvent frustrée. Martin Lude était originaire de Saxe, moine de l'ordre appelé « les ermites de Saint-Augustin » et professeur de théologie à l'université de Wittenberg. Il était doué de grands talents et d'un vaste savoir, son cœur était profondément imprégné de piété et son esprit enrichi de connaissances scripturaires. Astérisque lorsqu'il entendit Tetzel proclamer l'efficacité salvatrice universelle des indulgences et vit les conséquences démoralisantes qui s'ensuivaient, son zèle s'enflamma et il dénonça publiquement le honteux trafic qui abusait le peuple et mettait en péril les âmes des hommes. Astérisque commentaire de l'éditeur du site. Je dois diverger de l'auteur Janet pour des raisons exposées plus haut. Lude a rejeté l'attribution apostolique d'Hébreux, de Jacques, de Jude et de l'Apocalypse. En outre, il pensait que l'épître de Jacques ne valait rien, tout en rejetant l'Apocalypse comme n'étant pas inspiré par le Saint-Esprit. Cela qualifie difficilement un homme dont le cœur est profondément imprégné de piété et l'esprit enrichi de connaissances scripturaires. L'auteur ne fait que trahir son propre manque de maturité et de compréhension spirituelle, tout en étant trop empressé à faire la paix avec cette même chrétienté contre laquelle ses ancêtres quakers sont morts en s'opposant. Le plus troublant fut la haine flagrante de Martin Lude envers les Juifs et son incitation à les persécuter, détaillée plus haut à partir de l'article de Wikipédia sur Martin Lude. On prétend que cela a préparé le terrain à l'Holocauste perpétré par les nazis. Au début, il n'avait nullement l'intention de mettre en cause la suprématie du pape, car à cette époque, il était un fidèle adhérent de l'Église romaine, mais l'opposition violente et les insultes qu'il rencontra de la part de Tetzel et d'autres membres de l'ordre dominicain, ainsi que l'arrogance de Cajetan, le légat du pape, l'incitèrent à examiner de plus près le fondement de la suprématie papale. Il fut graduellement conduit à la conviction que la hiérarchie romaine était animée de l'esprit de l'Antéchrist, que la prétention du pape à la suprématie universelle était une usurpation flagrante, et que la doctrine du salut par les œuvres accomplies par la volonté non sanctifiée de l'homme était une dangereuse illusion. Le chef de l'Église militante, dit-il, c'est le Christ lui-même et non un homme mortel. Tous les chrétiens appartiennent à l'état spirituel, et il n'y a entre eux aucune différence, si ce n'est celle des fonctions qu'ils remplissent. Je déclare que ni le pape, ni l'évêque, ni aucun autre homme vivant n'a autorité pour imposer la moindre chose à un chrétien sans son propre consentement. Tels étaient les sentiments éclairés qui animaient le cœur du réformateur chrétien. Que n'eût-il été heureux pour lui et pour ses compagnons d'œuvre dans cette entreprise glorieuse, s'ils avaient toujours agi selon des principes aussi purs et nobles. Mais la lumière commençait à peine à poindre sur le monde, après une longue nuit sombre d'apostasie. On ne pouvait s'attendre à ce que les réformateurs visent d'emblée toutes choses clairement, et si sur certains points de doctrine et de discipline, ils se trompèrent, il faut attribuer leurs erreurs, non au manque de sincérité, mais aux ténèbres de l'époque où ils vivaient. Les vues de Lude furent publiées dans de nombreux ouvrages et soutenues dans des discussions publiques avec une éloquence énergique. Mais surtout, appuyées par le témoin divin de la vérité dans le cœur des hommes, elles se répandirent rapidement à travers l'Allemagne et pénétrèrent dans d'autres pays, produisant dans toute l'Europe une profonde sensation. Parmi les partisans fanatiques de la papauté, elles furent reçues avec alarme et indignation. Mais pour les esprits pieux et réfléchis, elles apparurent comme les premiers rayons du soleil levant se réfléchissant sur les cimes des montagnes, annonciateurs d'un jour glorieux. Léon X, d'un caractère facile et occupé de projets de luxe et d'ambition, négligea d'abord les efforts du réformateur, mais enfin, poussé par les plaintes de ses légats et conseillers, il tenta la négociation afin d'amener Lude à se rétracter. Le trouvant ferme à maintenir ses opinions, une bulle d'excommunication fut publiée en 1520, dans laquelle les écrits de Lude étaient condamnés au feu, et le réformateur lui-même, s'il ne se rétractait pas dans les 60 jours, était déclaré hérétique contumace, devant être saisi et conduit à Rome. Si cette sentence avait pu être exécutée, Lude et ses amis auraient souffert dans les cachots de l'Inquisition ou sur le bûcher le terrible sort qui attendait toujours les défenseurs de la liberté chrétienne. Heureusement pour la cause de la Réforme, Frédéric le Sage, électeur de Saxe, protégea Lude et lui permit de poursuivre ses travaux religieux. À peu près au même moment, Charles Quint, élu empereur d'Allemagne, convoqua le réformateur pour comparaître devant lui à la diète réunie à Worms. Là, en présence de l'empereur, des princes d'Allemagne et des dignitaires de l'Église, il fut enjoint à Lude de renoncer à ses prétendues hérésies. Ce fut un spectacle sublime de courage moral et de foi chrétienne que de voir un humble moine, frappé d'excommunication et en péril de mort, se tenir devant cette auguste assemblée, soutenant la vérité avec une constance inébranlable, et menacé du sort réservé à l'hérétique obstiné, s'écrier avec une ferveur pieuse « Que Dieu me soit en aide, car je ne puis rien rétracter ». Ayant reçu de l'empereur un sauf-conduit, Lude fut autorisé à regagner son foyer, mais la diète condamna ses doctrines, ordonna que ses livres fussent brûlés et que sa personne fût emprisonnée dans l'attente de son châtiment. Son ami et protecteur, l'électeur de Saxe, fit en sorte qu'il fût arrêté sur le chemin du retour et conduit au château de la Wartburg, afin de le soustraire à ses ennemis. Là, il s'employa à traduire le Nouveau Testament en langue allemande, œuvre qui accéléra grandement les progrès de la Réforme. Lorsque l'objectif de sa détention eut été atteint, il fut relâché et continua de promulguer ses doctrines avec un succès remarquable, aidé dans ses travaux par Philippe Melanchthon et d'autres réformateurs éminents. Il est remarquable que, dans plusieurs États d'Europe, l'impulsion religieuse qui produisit la Réforme fut presque simultanée, bien qu'au début il n'y eût aucun accord ni aucune coopération entre ceux qui furent appelés à cette œuvre. Les résultats furent cependant très différents. Car tandis qu'en Allemagne du Nord, en Suisse, en Suède, au Danemark, en Prusse et en Grande-Bretagne, la religion de Rome fut en grande partie supplantée par les doctrines des réformateurs, la lutte qui eut lieu en France, en Belgique, en Allemagne méridionale, en Hongrie et en Pologne se termina en faveur de la papauté. Même en Espagne et en Italie, les nouvelles doctrines furent accueillies favorablement par beaucoup, mais les terreurs de l'Inquisition suffirent à les étouffer sans délai. En France, la lutte fut longue, ardue et sanglante. Les mesures les plus violentes et les plus sanguinaires furent poursuivies par les papistes, l'épée du guerrier, le chevalet de l'inquisiteur, le lugubre cachot et le feu lent qui consume furent appliqués sans pitié à des personnes de tout rang entachées de la prétendue hérésie, qui refusaient d'abjurer leur foi. Quelques-uns furent amenés à se rétracter, beaucoup s'enfuirent en Suisse, en Allemagne et en Angleterre, tandis qu'un grand nombre subirent le martyre avec une constance inébranlable. Au début de la Réforme, Lude ne comptait pas sur l'aide des princes pour faire avancer son œuvre. Il dit à l'électeur de Saxe « Aucun bras séculier ne peut faire avancer cette cause. Dieu doit tout faire sans l'aide ni la coopération de l'homme. » Et au duc de Savoie il écrivit, désavouant l'usage de l'épée dans la cause de la religion, et soutenant que « c'est par le souffle de sa bouche que Jésus détruira l'Antéchrist, de sorte que, comme Daniel le décrit, il pourra être brisé sans main. » Cette ligne de conduite, si conforme aux doctrines et à l'exemple du Christ, fut bénie des résultats les plus heureux, et la réforme se répandit avec une rapidité étonnante, mais hélas, les réformateurs commencèrent bientôt à s'appuyer sur le bras séculier, et Lude lui-même donna son approbation à une alliance entre l'Église et l'État en Saxe. L'électeur s'arrogea la suprématie dans les affaires ecclésiastiques astérisque et Lude, le considérant comme le gardien du peuple, estimait qu'il devrait contraindre les habitants, qui ne veulent ni pasteur ni école, à recevoir les moyens de grâce, comme ils sont contraints de travailler aux routes, aux ponts et à d'autres services de ce genre. En Suède et au Danemark, après la Réforme, la forme de gouvernement ecclésiastique fut semblable à celle de la Saxe, le souverain étant le chef de l'Église. En Suisse, la souveraineté dans les affaires ecclésiastiques fut confiée au Conseil des 200, un corps politique. Astérisque plutôt que de subir les persécutions que tous les vrais disciples du Christ doivent subir, Lude a cédé la suprématie de la nouvelle secte au gouvernement afin d'être protégé des persécutions. Comparez cette compromission de Lude avec les premiers Quakers en Angleterre et en Nouvelle-Angleterre. À l'époque de Fox, il y eut 5 gouvernements en Angleterre, Charlie et Oliver Cromwell, Charlie, Jackie et Guillaume et Marie. Sous le seul règne de Charlie, 13 562 Quakers furent emprisonnés, 338 moururent des blessures infligées lors des réunions en prison, et 198 furent envoyés en esclavage au-delà des mers. Source, Catholic Encyclopedia. 4 Quakers furent pendus à Boston. Sous les 4 premiers souverains, Bessie's Sufferings recense 869 Quakers morts en prison. Des dizaines de milliers furent envoyés en geôle et en prison. Quand on les envoyait en prison, même leurs enfants étaient vendus comme esclaves. D'innombrables dizaines de milliers virent leurs biens mobiliers et immobiliers saisis comme butin à emporter par les tribunaux, après condamnation pour refus de prêter serment, refus d'ôter leur chapeau au tribunal, déplacement le dimanche, refus d'assister aux services religieux approuvés par l'État, refus de payer la dîme au presbytère approuvé par l'État, et pour s'être réunis dans un culte non approuvé par le gouvernement. Voir Quaker persécution pour les détails. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. 2 Tim 3, 12 Lude fut aussi sélectif dans ses croyances concernant les Écritures. Il avait une faible estime des livres d'Est, d'Hébreu, de Jacques, de Jude et de l'Apocalypse. Il appelait l'épître de Jacques une épître de paille, croyant qu'elle contredisait la foi au Christ et à son œuvre de salut. Pourtant Jacques était un apôtre, un frère naturel de Jésus, et un pilier de l'Église à Jérusalem avec Jean et Pierre, tout cela le rendait bien plus grand en Christ que Lude. Lude eut aussi des paroles dures au sujet de l'Apocalypse, disant qu'il ne pouvait, en aucune façon, discerner que le Saint-Esprit l'ait produite. Il justifia son rejet du caractère apostolique d'Hébreu, de Jacques, de Jude et de l'Apocalypse au motif que l'Église catholique romaine primitive classait ses livres parmi les antilogomnats, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas acceptés sans réserve comme canoniques. Lude ajouta aussi, de manière controversée, le mot seul à Romains 3, 28, de sorte qu'il devint « l'homme est justifié par la foi seul, sans les œuvres de la loi ». Le mot seul n'apparaît pas dans le texte grec original, mais Lude défendit sa traduction en soutenant que l'adverbe seul était requis à la fois par l'allemand idiomatique et par le sens voulu par l'apôtre Paul. Lude rejeta l'épître de Jacques parce que Jacques disait « la foi sans les œuvres est morte ». Et l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement, Jacques 2, 14, 26. Lude pensait, et beaucoup pensent encore, que Paul est en conflit avec Jacques, mais bien sûr Jacques et Paul ne sont pas en conflit, et ne le seraient jamais. Dans les Écritures ci-dessous, Paul parle dans le contexte des œuvres de la loi sans la foi. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Galates 2, 16 Un homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains 3, 28 Paul semble même se contredire. Nul n'est justifié par la loi devant Dieu. Galates 3, 11 Mais Paul dit aussi, seuls les pratiquants de la loi écrite dans leur cœur seront justifiés. Romains 2, 13-14 Paul dit que les œuvres de la loi, sans la foi en Christ, ne valent rien. Paul parle des œuvres de la loi qui sont mortes, circoncision, nourriture et boisson, jour, ablution, sabbat, sacrifice, etc. Paul parle des œuvres d'humilité volontaire et de celles qui ne sont pas suscitées par Dieu. Les œuvres d'humilité volontaire et les œuvres sans amour ne comptent pour rien. 1 Cor 13, 3 La seule chose qui compte, c'est la foi qui s'exprime par l'amour. Galates 5, 6 La foi activée, dynamisée et agissante par l'amour. Considérons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24 Paul ne dit pas que vous pouvez ignorer le code moral de la loi, être sans amour, immoral, cupide, livré au plaisir, colérique, etc. Paul a dit « Car ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique seront justifiés, car lorsque les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes, eux qui montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant aussi témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Romains 2, 13-16 Paul a dit « J'ai déclaré qu'ils devaient se repentir, se tourner vers Dieu, et faire des œuvres dignes de la repentance. » Actes 26, 20 Paul a dit « Continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. » Philippiens 2, 12 Paul a encore dit que la grâce produit un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 14 Paul a dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 1 Paul a dit « Recommande à ceux qui sont riches dans le présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. » Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres, prompt à donner, disposé à partager. 1 Tim 6, 17-18 Si vous vivez dans une nation prospère et industrialisée, vous êtes riche, comparé au reste du monde. Soyez donc riche en bonnes œuvres. Pierre a dit, « Quiconque le craint et pratique la justice lui est agréable. » Actes 10, 35 Pierre encore, « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. » La connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété. 2 Pie 1 5 Jésus a dit « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. » Luc 13 3 La repentance exige un effort de votre part. « Et tout ce que j'aime, je les reprends et je les châtie. Ayez donc du zèle et repentez-vous. » Apoc 3 19 Zélé signifie rempli d'un désir ardent et enthousiaste. Jésus a encore dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » Matthieu 11 29 Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Luc 9, 23 Jésus a dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Apoc 3, 2, 3 Il veut des œuvres parfaites, dynamisées par la foi. Écoutez. Jésus a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, et ne le pourront pas. » Luc 13, 24 L'évangile de la grâce voudrait vous faire croire que l'effort est inutile. Pourtant Jésus nous a ordonné de nous efforcer, de faire tous nos efforts. Jésus dit encore que la porte est étroite et resserrée qui mène à la vie. Que peu la trouveront, et que beaucoup tenteront d'entrer et n'y parviendront pas. Les avertissements de Jésus n'entrent-ils pas en sérieux conflit avec une grâce instantanée? Croire, réciter la prière du pécheur et être baptisé dans l'eau n'est ni difficile à trouver ni à faire. Réfléchissez-y. Une guerre entre les cantons catholiques et protestants, causée par des dissensions religieuses, ralentit les progrès de la Réforme, mais ceux-ci furent ensuite accélérés par les travaux de Jean Calvin, réfugié de France, qui devint l'esprit maître dans les rangs des réformateurs. Il se distingua par ses talents, son savoir et son zèle religieux, mais, hélas, il ne fut pas délivré de cet esprit intolérant qui caractérisait l'époque. Le bûcher de Cervet pour ses prétendues hérésies relatives à la Trinité a laissé une tache indélébile sur le caractère de Calvin, mais il faut se souvenir que l'acte effroyable fut approuvé par beaucoup des réformateurs les plus éminents. Et ils avaient emporté avec eux, de l'Église de Rome, certaines de ses maximes les plus pernicieuses. L'une menait à l'union de l'Église et de l'État, une autre, au maintien du clergé par la dîme, et une troisième, à la persécution pour des prétendues hérésies de doctrine. Commentaire de l'éditeur du site. L'auteur se retranche derrière la défense du « tout le monde le faisait », où « tous les grands hommes de Dieu étaient des meurtriers », du faux prophète Jean Calvin, qui dirigeait une théocratie à Genève à laquelle on attribue 58 condamnations à mort pour sorcellerie ou hérésie, dont les détails ont déjà été énumérés plus haut. En Angleterre, un vigoureux effort en vue d'une réforme de l'Église avait été entrepris par le célèbre John Wycliffe, environ 150 ans avant l'époque de Lude. Il traduisit le Nouveau Testament en anglais et écrivit de nombreux ouvrages religieux dans lesquels il nia l'infaillibilité et la suprématie du pape, ainsi que la doctrine de la transsubstantiation. Il affirma aussi que les enfants peuvent être sauvés sans baptême et que le baptême d'eau ne profite pas sans le baptême de l'esprit. Ses vues éclairées furent condamnées par le pape et par une convocation d'évêques tenue à Londres en 1382, Mais, en raison d'un schisme dans l'Église et d'une guerre entre les deux antipapes de Rome et d'Avignon, le réformateur anglais fut autorisé à vivre jusqu'au terme de ses jours et à propager ses doctrines. Les principes de Wycliffe se répandirent largement en Angleterre et gagnèrent même le continent, où beaucoup embrassèrent ses vues, préparant ainsi la voie à un mouvement plus décidé. Alors que, sur le continent, la réforme fut commencée par des hommes pieux animés d'un zèle religieux, il est remarquable qu'en Angleterre le premier pas vers la rupture avec Rome fut accompli par un monarque capricieux et despotique, mû par des passions dépravées. Henri V fut d'abord un fidèle partisan de la papauté, et à l'apparition des écrits de Lude en Angleterre, le roi prit la plume pour défendre l'Église de Rome, ce pourquoi Léon X le récompensa du titre de « défenseur de la foi ». La réponse de Lude fut sévère et discourtoise, ce qui produisit dans l'esprit du monarque anglais une antipathie qui ne fut jamais dissipée. Henri était marié à Catherine d'Aragon, veuve de son frère Anse, mais, s'éprenant de la belle Anne Boleyn, il prétendit éprouver des scrupules quant à la validité de son mariage et demanda au pape Clément VIII un divorce qui, après bien des retards et des tergiversations, fut refusé. Le roi, homme de passion violente et presque de pouvoir absolu dans son royaume, résolut de suivre sa propre voie au mépris du pape. Les universités consultées déclarèrent son mariage invalide, il convoqua ensuite une assemblée du clergé et une réunion du Parlement, qui le reconnurent tous deux comme « le protecteur et chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre ». S'étant ainsi affranchi du joug papal, il épousa Anne Boleyn et, peu après, reçut de l'archevêque Cranmé un divorce d'avec Catherine, qui aurait dû précéder son second mariage. La bulle d'excommunication du pape contre Henri tomba sans effet à ses pieds, la rupture entre Rome et l'Angleterre fut définitive, mais le peuple anglais découvrit bientôt que le chef de son Église n'était pas moins despotique et arrogant que les pontifes romains. Bien que séparé de l'Église catholique, il maintint encore la plupart de ses dogmes et imposa ses propres opinions aux autres avec une sévérité inflexible. Le Parlement et le haut clergé se soumettant à sa volonté, les lois les plus intolérantes furent adoptées contre tous ceux qui niaient la suprématie du roi ou professaient les doctrines des réformateurs. Ainsi, catholiques et protestants se trouvèrent pareillement entraînés dans une dure persécution. On dit que, sous ce règne, 72 000 personnes furent exécutées. Les biens de l'Église et les terres des abbayes confisquées par la couronne représentaient plus du tiers du patrimoine foncier du royaume, mais ce n'était pas seulement la propriété de l'Église, on la considérait aussi comme le patrimoine des pauvres, car une partie des dîmes et autres revenus ecclésiastiques avaient toujours été affectés au soulagement des indigents. L'Église d'Angleterre et les partisans d'Henri s'étant appropriés ces immenses revenus, il devint nécessaire, par la suite, d'imposer le peuple pour l'entretien des pauvres. À la mort d'Henri, son fils Édouard VIII, un garçon âgé de moins de 10 ans, monta sur le trône et devint chef de l'Église d'Angleterre. Bien qu'une majorité des évêques et du clergé inférieur fût du côté du papisme, le conseil du roi, désigné par la volonté de son père, était pour la plupart favorable à la réforme, et ainsi les nouvelles doctrines, promues par la faveur de la cour et par des dispositions légales, prirent l'ascendant. Le règne d'Édouard ne dura que 7 ans, et après sa mort, le trône fut occupé par sa sœur Marie, catholique fanatique, qui arrêta la réforme, rétablit les anciennes formes et condamna aux flammes près de 300 personnes qui avaient embrassé les doctrines protestantes. Le Parlement, avec la soumission la plus abjecte, adopta un acte exprimant un repentir sincère de sa conduite antérieure et une humble reconnaissance de la suprématie du pape. Il demanda à être réintégré dans l'Église catholique, mais il prit soin de ne pas restituer les terres des abbayes et les revenus de l'Église, distribués parmi l'aristocratie. Marie ne régna que 5 ans et fut remplacée par sa sœur Elizabeth, fille d'Anne Boleyn. Elle était protestante et se révéla être une souveraine capable. Un nouveau Parlement, réunie, déclara la reine gouvernante de l'Église, et par un seul acte, balaya tout ce qui avait été fait pour le romanisme sous le règne précédent, en prenant soin aussi d'assurer les biens ecclésiastiques confisqués à ceux qui les possédaient. L'aristocratie et la gentry au Parlement étaient toujours prêtes à changer de religion au gré du souverain, elles pouvaient renoncer à tout sauf au butin, le clergé manifesta un degré égal de servilité, car malgré ces changements soudains et violents dans l'Église, ils conservèrent presque tous leurs postes. Sur 9400 bénéfices paroissiaux, seuls 243 ecclésiastiques démissionnèrent. Et Lessebus, aimant un cérémonial pompeux, conserva dans le service de l'Église certains vestiges du romanisme, ce qui offensa ceux du clergé qui étaient des réformateurs zélés. Ils plaidèrent pour une forme de culte plus pure, et étant stricts dans leurs mœurs et rigides dans leurs opinions, obtinrent le nom de puritains. Ils étaient généralement calvinistes dans leur doctrine. les nouveaux évêques nommés par la reine revendiquaient leur autorité par succession apostolique, par l'intermédiaire de l'Église de Rome, et pensaient donc être tenus d'admettre qu'elle était une véritable Église, bien que corrompue en doctrine et en discipline. Les puritains affirmaient que le pape était l'Antéchrist et l'Église de Rome apostate, ils contestaient donc la validité de l'ordination par succession. Les lois pénales contre l'hérésie et la sévérité des évêques chassèrent de l'Église tous ceux qui ne pouvaient se conformer au rituel établi. Dès lors, les ministres puritains furent contraints de prendre position en opposition à la hiérarchie. La réforme avait déjà été établie en Écosse, où la forme presbytérienne de gouvernement ecclésiastique avait été adoptée, et lorsque, après la mort d'Elizabeth, le monarque écossais succéda au trône d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier, les puritains espérèrent bénéficier de la protection d'un roi éduqué selon des principes semblables aux leurs. Ils furent toutefois déçus, car le roi, faible et pédant, fut bientôt gagné par les évêques, dont la doctrine d'obéissance passive au pouvoir royal flattait sa vanité et lui assurait leur faveur. Les non-conformistes, zélés et actifs, continuèrent à croître en nombre et gagnèrent la faveur du peuple par leur opposition aux maximes despotiques relatives au gouvernement, émises par le roi et sanctionnées par les évêques. Lorsque, à la mort de Jacques, son fils Charles y monta sur le trône, les puritains étaient devenus un parti redoutable, dévoué à la cause de la liberté civile et puissamment ancré dans l'affection du peuple. Ils étaient tournés en ridicule par les courtisans pour l'austérité de leur manière, leur affectation de formules scripturaires et leurs prétentions de sainteté. Ils possédaient cependant, sous cet extérieur rébarbatif, une force de caractère et une détermination de dessein qui assurèrent leur triomphe au jour de l'épreuve. Ils croyaient fermement à l'élection et à la réprobation inconditionnelle, et par conséquent, se considéraient comme faisant partie de ce petit nombre appelé les élus, pour lesquels seul le Christ mourut, afin de leur acquérir un héritage éternel. Ils regardaient leurs adversaires comme les ennemis du Christ et n'hésitaient pas à leur appliquer le langage énergique par lequel les prophètes hébreux dénonçaient l'idolâtrie païenne. « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec tromperie et qui retient son épée loin du sang » était leur texte favori à la veille de la bataille. Les maximes despotiques, la conduite vacillante et la politique perfide de Charles ayant soulevé l'indignation du peuple, le célèbre Long Parlement, où les puritains avaient l'ascendant, déploya l'étendard de la Révolution et appela la nation aux armes. Dans le redoutable conflit qui s'ensuivit, la supériorité des forces parlementaires devint manifeste. L'armée commandée par Cromwell se distingua par une discipline stricte, un courage indomptable et un zèle fanatique. Des psaumes et des cantiques retentissaient dans le camp, et les officiers, assumant les fonctions du ministère, encourageaient leurs troupes en citant les exemples des juges et des vengeurs d'Israël. En Écosse, la tentative du roi d'imposer au peuple la forme épiscopale de gouvernement de l'Église le poussa à la rébellion, et, après avoir conclu une alliance pour la préservation de leur liberté, ils défirent les troupes du roi et maintinrent leur position. En l'année 1643, le Parlement anglais conclut avec les Écossais une « ligue » et « alliance solennelle » « Solan League and Covenant » dont l'objet était de promouvoir la religion protestante et d'abolir la hiérarchie. Une assemblée de théologiens astérisques, convoquée par le Parlement, s'étant réunie à Westminster, adopta une confession de foi et une forme de gouvernement ecclésiastique qui, soumise au Parlement, furent confirmées sous le titre de « A Directory for Public Worship » passed January 3D, 1644-5. L'Église d'Angleterre ayant été renversée par l'Alliance, et le Directory n'étant pas généralement mis en pratique, le peuple fut laissé libre, dans la plupart des lieux, de suivre sa propre voie, et les diverses sectes dissidentes s'avancèrent plus ouvertement pour défendre leurs principes. Astérisque, un théologien était quelqu'un qui pouvait lire le latin, le grec et l'hébreu. On les considérait comme des autorités en raison de leur capacité à lire les Écritures dans les langues originales, sans traduction. S'opposant au désir d'un riche de fonder un collège pour former des ministres, George Fox tourna ce terme en ridicule, déclarant qu'enseigner aux hommes l'hébreu, le grec, le latin et les sept arts, qui n'étaient tous que des enseignements de l'homme naturel, n'était pas le moyen de faire de des ministres du Christ. Car les langues commencèrent à Babel, et pour les Grecs, qui parlaient le grec comme langue maternelle, la prédication de la croix du Christ était une folie. Et pour les Juifs, qui parlaient l'hébreu comme langue maternelle, le Christ était une pierre d'achoppement. Les Romains, qui avaient le latin, persécutèrent les chrétiens, et Pilate, l'un des gouverneurs romains, plaça au-dessus du Christ lorsqu'il le crucifia, une inscription rédigée en hébreu, en grec et en latin. Nous voulions que cet homme voie que les nombreuses langues commencèrent à Babel, et qu'on les plaça au-dessus du Christ la parole lorsqu'ils le crucifièrent. Jean le théologien, qui prêchait la parole qui était au commencement, dit que la bête et la prostituée ont pouvoir sur les langues et les langages, et qu'ils sont comme des eaux. Ainsi lui dis-je, ils pouvaient voir que la prostituée et la bête ont pouvoir sur les langues et les nombreuses langues, qui sont dans Babylone la mystérieuse, car elles commencèrent à Babel, et les persécuteurs du Christ Jésus les mirent au-dessus de lui, lorsqu'il fut crucifié par eux, mais il est ressuscité au-dessus d'elles toutes, lui qui était avant elles toutes. Maintenant, dis-je à cet homme, penses-tu faire des ministres du Christ avec ces langues naturelles et confuses qui ont jailli de Babel, sont admirées à Babylone, et ont été placées au-dessus du Christ, la vie par un persécuteur? Oh non, l'homme reconnut beaucoup de ces choses. Puis nous lui montrâmes davantage que le Christ fit lui-même ses ministres, leur donna des dons et leur dit, priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et Pierre et Jean, bien qu'incultes et ignorants quant à l'instruction des écoles, prêchèrent Christ Jésus la parole, qui était au commencement, avant que Babel fût. Paul aussi fut fait apôtre, non par des hommes ni par un homme, il ne reçut pas davantage l'évangile d'un homme, mais de Jésus-Christ, qui est le même maintenant, et l'évangile aussi comme il l'était alors. À l'assemblée de Westminster, les presbytériens, calvinistes dont les ministres, étaient choisis par le clergé prédominait, et durant leur brève ascendance, ils employèrent des moyens coercitifs pour établir leur forme de culte. Les indépendants, congrégationalistes calvinistes qui choisissaient leurs propres ministres, alors minoritaires, se montraient plus libéraux dans leurs déclarations, mais lorsqu'ils accédèrent au pouvoir politique, ils tombèrent dans l'erreur commune, s'appuyer sur le bras séculier pour être soutenus, exiger l'uniformité de la foi et du culte, et persécuter tous ceux qui ne se conformeraient pas à leur vue. William Penn a justement fait remarquer que les enfants des réformateurs, sinon les réformateurs eux-mêmes, eurent très tôt recours à la politique et au pouvoir terrestre pour soutenir et poursuivre leurs réformes, commencées avec des armes spirituelles, et c'est à cela qu'il attribue leur manque de progrès dans la vie spirituelle. Un théologien éminent de notre pays a affirmé avec vérité que le grand et plus fatal défaut de la réforme de Lude fut d'avoir laissé intact le règne du dogme ou de la théologie spéculative. Il ne rétablit pas le ministère de l'esprit. Les opinions demeurèrent à gouverner l'Église, avec autant de poids qu'auparavant. Il nous délivra du pape et des conciles, mais il conserva ce qui faisait le pape et les conciles, l'autorité des opinions humaines et d'une théologie purement spéculative. L'homme de péché astérisque fut écarté, mais le mystère d'iniquité, dont il était né, fut conservé. Opinions, spéculations et formules théologiques furent encore considérées comme les lumières de la religion. Tous les jugements portés sur les hommes, comme chrétiens ou non chrétiens, continuèrent, comme auparavant, à être déterminés par leurs opinions et non, en aucune mesure, par leurs fruits ou leur caractère. L'amour, la miséricorde, la foi, une vie pure et sainte, restèrent des choses secondaires importantes, bien sûr, mais non la chose principale. Le christianisme demeura aux mains des écoles et des docteurs, et l'on appelait ici ou là la foi ce qui, ici ou là, avait été démontré comme le véritable dogme théologique. Astérisque le fait que Lude ait écarté le pape n'est pas l'élimination de l'homme de péché. Encore, l'homme de péché est votre propre esprit égoïste, votre propre esprit charnel qui ne peut se soumettre à la loi de Dieu, et votre mauvais cœur. Tout cela est détruit lorsque le Seigneur apparaît au-dedans de vous pour écraser la tête de Satan sous vos pieds, et lorsqu'il détruit votre mauvais esprit par l'éclat de sa venue et l'épée de sa bouche. Comme le détaille le verset et la note de bas de page de la Bible en ligne citée, 2:2-3:4 de ce site, George Fox comme William Penn ont écrit que cet homme de péché est votre propre esprit mauvais et égoïste, qui doit être révélé et détruit. Conformément à ce point de vue, on peut affirmer sans risque que, le ministère de l'esprit n'ayant pas été rétabli, les fruits de l'esprit ne furent pas généralement manifestés. Bien qu'il y peut être pure spéculation bi-janais des individus qui avaient atteint la pureté de vie, il n'existait pas d'église visible qui s'éleva au niveau du christianisme primitif. Au lieu de ce culte spirituel pur et du ministère de l'évangile libre institué par le Messie, un cérémonial pompeux et un ministère tirant de l'homme son appel, sa qualification et sa récompense prévalurent trop généralement. La liberté religieuse était à peine connue, même parmi les réformateurs, car tous les partis qui parvinrent au pouvoir montrèrent une disposition à imposer leurs propres opinions aux autres et passèrent le plus souvent à l'infliction d'amendes, à l'emprisonnement et à la mort. Loin de rendre, comme l'Église primitive, témoignage contre la guerre, l'épée fut dégainée dans toute la chrétienté, et beaucoup de ceux qui se prétendaient ministres de l'Évangile furent des acteurs ou des instigateurs du conflit meurtrier. Le serment, bien que défendu par le Christ, était presque universellement pratiqué, et au milieu de toutes les fluctuations de l'Église et de l'État, on imposait des serments au peuple à chaque changement de gouvernement, lesquels, étant incompatibles entre eux, impliquait souvent le crime de parjure. Et enfin, dans toute la chrétienté, il y eut un déclin général de cette pureté de vie et de cette simplicité de mœurs qui caractérisait les chrétiens primitifs. Malgré ces insuffisances, il faut reconnaître que les réformateurs protestants furent d'éminents instruments de la bonté divine pour faire avancer la cause de la vérité, en secouant les chaînes de la hiérarchie romaine et en introduisant une plus grande liberté de pensée et d'expression. Il y eut beaucoup de personnes pieuses et éclairées qui déploraient que la réforme n'eût pas été achevée et qui attendaient l'aurore d'un jour plus lumineux. Parmi elles se trouvait William Dell, maître du Gonville and Caius College, Cambridge, qui vécut pendant le protectorat de Cromwell. Dans la préface d'un discours montrant la spiritualité du baptême chrétien, il écrit ce qui suit « J'en appelle à la génération suivante, qui sera plus éloignée de ses mots et sera amenée plus près de la parole, mais surtout à ce peuple que Dieu a formé et formera par son esprit pour lui-même, car eux seuls seront capables de porter en cette matière un jugement juste et droit, puisqu'ils ont l'onction pour maître et l'agneau pour lumière. » Commentaire de l'éditeur du site. Remarquez que la déclaration ci-dessus montre une absence totale de toute mention de la croix intérieure du renoncement à soi, l'unique voie par laquelle un homme peut acquérir la capacité de porter un jugement juste et droit, car c'est alors seulement qu'il peut entendre la voix en mesure suffisante pour juger selon les paroles fournies par la voix du Seigneur, la parole de Dieu au-dedans de son cœur. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.